Service après-vente de la F1.
Salut à tous et bienvenue pour ce service après-vente de la F1 consacré au Grand Prix d'Europe à Valence, le pays de la paella. C'est même pas une blague. Après un bon mois de vacances à se dorer la pilule au soleil au bord de la mer, le F1 Circus revient faire sa rentrée, au soleil et au bord de la mer, sur une piste qui avait beaucoup à se faire pardonner après la course de l'an passé. Un Grand Prix cette année sous le signe des retours, celui de Luca Badoer derrière un volant.
Non, ça c'est pas possible, non. Excuse-moi Sinji de t'interrompre là pendant ton intro.
Mais, non, on va quand même pas la refaire trois fois.
Non, c'est pas possible. Écoute, moi j'avais accepté de faire le podcast là du SAV avec vous, mais je voulais qu'on fasse quelque chose de sérieux là. Mais là ça franchement c'est du grand n'importe quoi. Parce qu'on faut parler de trucs importants là, parce que franchement, il y a des choses, il y a eu des drames ces derniers jours, et je pense que c'est plus important que ce que tu viens de dire, Sinji, quoi. Il y a 15 jours. Excuse-moi, mais il y a 15 jours. C'était mardi 11 août, je m'en rappelle, quoi. Franchement, ça a été un drame. On nous a annoncé que finalement Schumi revenait pas, quoi. Et pour tous les fans de l'allemand, ça a été vraiment un drame. Depuis 2006, quand on nous a annoncé son départ à la retraite, c'était super dur. Mais là, on se réjouissait tous de le revoir remonter dans la Ferrari, et c'est comme s'il repartait une deuxième fois à la retraite. Donc moi perso, je me suis senti mal vraiment toute la journée, hein. C'était terrible, mais non, mais, quoi. Ouais, alors attends, laisse-moi s'il te plaît.
Non mais Yannick, parce que t'aurais pu laisser Shinji finir et on en reparlait après, quoi.
Non, moi écoute, je me suis senti vraiment mal. Alors j'ai fait ce que mon psy me conseille quand je suis dans cet état. J'ai pris une feuille.
Pire.
Non, j'ai pris une feuille. J'ai écrit tous les mots que j'avais au plus profond de moi, quoi. Toutes ces émotions, tous ces sentiments.
Ah, j'aimerais bien écrire par la feuille.
Tristesse. Et je les ai transposés à l'aide de mots simples sur une page blanche. Puis je vais vous les lire, quoi. Voilà, je vais vous les lire. C'est quelques mots que je vous ai écrits, quoi.
Qu'est-ce qui nous a préparé?
Non, attends, je vais faire mieux que ça. Je vais me mettre à mon piano même et je vais vous livrer mes émotions. Et surtout, si les auditeurs sont comme moi, si vous êtes comme moi, si vous avez envie de pleurer, vous retenez pas, ça vous fait du bien.
Vraiment, je t'en prie, reprends vite ta Ferrari. Schumi revient à Spa. La F1 n'est plus pareille sans toi. Y'a des gamins de Formule 3, Monaco, Monza, Imola ou bien Spa. Sur toutes ces pistes, au volant tu n'es pas. On t'a pourtant vu tant gagner là-bas. Monaco, Monza, Imola ou bien Spa. Depuis 3 ans que t'as quitté les rangs, les dimanches sont beaucoup plus tristes qu'avant. Ferrari, on peut pas vivre sans toi. Avec ton remplaçant Kimi, je m'y fais pas de conneries. Quand on aime, on s'en va pas. On quitte pas la Scuderia, Monaco, Monza, Imola ou bien Spa. Depuis 3 ans que t'as posé tes gants, les grands prix sont beaucoup plus chiants qu'avant. Italien, allemand, anglais, japonais. Depuis 3 ans attendait cet instant. Même Bernie parlait toi en dormant. Monaco, Monza, Imola ou bien Spa. Depuis 3 ans que t'as quitté les rangs. Chumi, je suis sûr qu'un jour tu reviendras. Rubens ou Button, Coulthard ou Montoya, tape dans leur gomme. Mais face à toi, ils ne font pas le poids. Monaco, Monza, Imola ou bien Spa. Pour tous tes fans, un jour tu regagneras.
Et moi j'ai pleuré.
Ah, moi aussi je pleure, mais de rire. Alors bon, faut quand même dire, hein, c'est que nous on avait la chance d'avoir les images avec.
Wow.
J'ai dit ça y est là.
Bon bah, ben, comme Shinji.
J'ai dit, ça va?
Ça va, ouais.
Surtout, ayez tous un défibrillateur chez vous parce que. Donc, mais ça te vient d'où ce ton, Enzo?
Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a mon ton?
Mais non, mais tu chantes bien et tout, et puis tu fais super bien du synthétiseur.
Hein? Ouais, je sais.
Allez, maîtrise totale. Hein. Oh. Ouf.
Bon. Ceci étant.
Donc bien sûr, il faut dire qu'aux auditeurs, ils pourront télécharger la vidéo, mais également la version karaoké.
Pour rechanter la chanson chez vous.
Eh oui.
Alors, comment dire. Je dois être honnête, Enzo.
Oui.
Et Shinji.
Oui.
Je dois vous dire que moi aussi, ces 4 dernières semaines ont été très difficiles. J'ai passé une période d'euphorie. Bon, d'ailleurs, on l'a passé ensemble avec les auditeurs ces dernières semaines. Et que quand l'annonce du renoncement de Michael Schumacher est intervenue, ça a été un anéantissement. Et je pense que Enzo, puisque partager une amitié et des affinités, on doit sans doute partager aussi le même psychologue.
Sans doute.
Parce qu'il se trouve que moi aussi j'ai ressenti ce besoin, irrépressible de coucher ma peine sur du papier. Et que moi aussi, j'ai pas de santé. Mais j'ai un bon logiciel de montage. Et donc, j'ai envie de partager avec vous moi aussi, ma version de ma douleur personnelle et profonde.
Un beau matin, j'ai découvert dans le journal qu'il reviendrait. Puis on a su qu'un gros nuage, terrible orage, s'était abattu. Et j'ai crié, crié, Chumi, pour qu'il revienne. Et j'ai prié, pour que son tienne. Quand il a lu le vague à l'âme, rendre les armes et se faire remplacer, j'étais foutu. Inconsolable, au bord des larmes, prêt à tout boycotter. Et j'ai crié, crié, Choumi, pour qu'il revienne. Et j'ai prié, prié, pour que son coup tienne. Mais j'ai regardé du cabadouer qui lui a succédé. Et c'était un naufrage. Et j'ai crié, crié, Choumi, pour qu'il revienne. Et j'ai prié, prié, pour que son coup tienne. Et j'ai crié, crié, Choumi, pour qu'il revienne. Et j'ai prié, prié. Mal de coups.
Allô, docteur Dimon ?
Oui ?
Oui. Oui, j'aurais un ami pour vous qui... J'aurais besoin de prendre un rendez-vous, oui.
Oui, vous voulez quel horaire ?
Vous avez un créneau pour quand, là ? C'est assez urgent, oui.
Alors, attendez. Bon, demain, j'ai monsieur Enzo à 14h, à 15h, à 16h, 17h, 18h. Écoutez, 19h, si vous voulez.
Oui, bah on va y passer la nuit, alors. Hein.
Je mets ça à quel nom ?
Yannick.
Yannick. Ah, ça va bien, ça va changer de prénom dans la journée, tiens. 15 fois Enzo, une fois Yannick. Oui.
Ah non, non, il faut bien 3-4 heures.
Ah, donc je prévois un sandwich.
Aussi.
Je note sandwich, voilà. Josiane, vous pouvez me préparer un sandwich pour demain, s'il vous plaît. Oui, poulet, thon, mayonnaise, voilà. Voilà. Merci, Josiane.
T'es un grand malade.
Vous pouvez repartir, hein, oui. Merci, bonne soirée, Josiane.
Non, mais sérieux,
oh, vous le grand tuer, malade.
On t'avouera que on est un peu tenté par l'idée de faire le SAV à deux, donc on s'est dit faut qu'on une CG, donc faut qu'on trouve un truc. Bon, pour tout,
ah, c'est bon.
Pour tout dire, à la base, c'était prévu que ça aille à la fin, mais bon.
Et ça tombe bien parce que j'ai fait la pochette de. Du CD de titre et j'ai marqué CD de titre. Je me demandais ce que j'allais mettre en deuxième titre. Mais c'est bon.
Oh, vu comme on est parti, on va trouver plus que deux titres. Donc, juste pour savoir, Shinji, tu n'as pas de psychologue, toi?
Bah non, je vais en avoir besoin.
T'es quand même au courant que le jour où Kimi part, t'es obligé de nous faire un truc.
Oui, mais quand il partira, il voudra pas revenir.
Ah, oui, effectivement.
Ah non, puis nous non plus.
Ah, salaud. Donc,
Tu sais que j'ai quand même passé une partie de golf complète à chanter T'en vas pas. Dans ma tête, j'ai joué, mais je n'avais que ça dans la tête. Walou, walou.
Bon. Alors, messieurs, je vous propose quand même que, bon... C'est vrai qu'on est très triste. Ouais. Il faut reprendre cette émission en main.
Ouais, là, parce que là...
Donc, on va s'excuser pour ton résumé. D'abord, j'ai dit, hein, t'avais fait une belle introduction. Ouais. On mettra quand même, même si elle a été...
À la fin.
On mettra la première version sur le blog, hein, d'accord. Comme ça, tout le monde pourra voir ton magnifique texte. Les vidéos que vous retrouverez sans doute sur Dailymotion, YouTube, enfin, on verra.
Surtout.
Et même si, si elles y sont pas, mettez-les.
Oui, voilà, mettez-les, hein, parlez, décidez.
À diffuser sans modération.
Donc, on a fait la première ligne de mon conducteur, à savoir introduction à Shinji et surprise Enzo. Et il est 22h07, messieurs, il nous reste plein de trucs à faire. Heureusement, on est à Valence.
Ouais.
Ça nous sauve un petit peu l'affaire.
Un grand prix où il se passe.
Hein, en plus, Alonso, Renault, etc., l'affaire a été emballée correctement, ce qui fait qu'ils étaient là. Donc, on n'aura pas à débattre sur la FIA. Et donc, on peut tout de suite passer, en introduction de cette émission, nous pouvons passer aux chiffres inutiles de Shinji.
Ouh, il va paraître bien fan après tout ça.
Mais chante-le. 2327.
Alors, le chiffre de la semaine, c'est 260. Et ça n'est pas le nombre de dépassements durant le Grand Prix d'Europe.
Ah bah non.
C'est peut-être le nombre d'albums vendus par Europe.
Non plus.
Oh, c'est petit ça. Oh, c'est mesquin. Le mec à la troisième reprise qui prend les vannes de Shinji. On vous dit tout, mesdames et messieurs, dans cette émission. On vous dit tout.
À 260.
Le nombre de revues qui ont mis Shumi en première page.
Mais non.
Est-ce que ça serait pas le nombre de billets qui ont été vendus à Valence?
Mais pourquoi êtes-vous si près de la F1?
Ah, c'est vrai. Vrai, merde, c'est loin. C'est le nombre de grues qu'il y a dans le port.
Non.
Oh, mais je sens que je suis pas loin.
C'est la hauteur d'une tour.
Non plus.
C'est le nombre de villes qu'il y a dans la communauté valencienne.
Non plus.
Eh ben, je donne ma langue au Shinji.
Enzo?
Pareil. Et moi, au chat, moi.
Ouais. C'est vrai que ça pourrait être mal interprété.
C'est très intéressant que tu parles de langue.
Le truc.
Car c'est le nombre de langues parlées en Europe.
Ah, c'est un chiffre européen, oh, le con.
Eh oui.
C'est un chiffre espagnol, moi. Il y a 260... Il n'y a pas 260... Ah oui, mais c'est vrai qu'il y a les dialectes.
La grande Europe géographique regroupe 35 langues officielles, enrichies de 225 langues secondaires non officielles. Ces chiffres représentent 3% du total des langues vivantes encore parlées sur la planète.
C'est bon ?
Non.
Une langue unique n'est parlée que dans 3 états. L'Islande, où l'on parle islandais, le Liechtenstein, où l'on parle allemand, et la République de Saint-Marin, où l'on parle italien. La cité du Vatican, plus petit état européen, est un cas à part. L'italien y est la langue véhiculaire.
Le latin.
Le latin est la langue juridique. Et le français est la langue diplomatique. D'ailleurs, le Vatican se fait enregistrer comme état francophone auprès des organisations internationales. Et l'allemand est la langue en usage dans l'armée et la garde suisse. Les autres états comptent tous plusieurs langues vernaculaires, tant dialectes que langues à part, plus ou moins reconnues et souvent non enseignées.
Et vernaculaire toi-même.
En Allemagne, on en trouve 21. En Azerbaïdjan, 13. En Bulgarie, 11. En Espagne, 14. En France, 25. En Italie, 33. En Roumanie, 14. Au Royaume-Uni, 12.
Ah, maintenant, on veut des noms. Alors, c'est tous les 25 langues qu'on parle en France. Ah non, on est en Espagne. C'est les 14 qu'on parle en Espagne. Allez, vas-y, cite.
Ah, on parle le castillan.
Ouais.
On parle le catalan.
Ouais.
On parle le galicien,
ouais.
L'andalou,
ouais.
Ça fait 4.
J'en ai déjà 4, c'est déjà pas mal.
Ouais, c'est déjà bien, c'est vrai.
Aux langues originaires des pays d'accueil s'ajoutent les langues maternelles des populations circulantes, comme les Roms, et donc aussi les langues des populations migrantes et réfugiées, comme l'arabe, le berbère, le turc ou l'hindi.
Ah ouais.
Il existe aussi des mélanges qui naissent dans les banlieues du continent ou dans les territoires d'outre-mer, comme le créole, des adaptations comme le verlan, des langues spécifiques à des corps de métier, le louchébem, ou des communautés, y compris virtuelles, sur l'Internet.
Tu peux me rappeler la définition de louchébem, s'il te plaît, Shinji?
Un instant, Shinji.
Vous avez demandé le service après-vente de la F1. Tous nos techniciens sont actuellement occupés. Veuillez patienter.
C'est le jargon des bouchers.
C'est quoi?
Le jargon des bouchers.
Et tu me rappelles comment c'était?
Le louchébem.
D'accord. Non, j'essaierai de le replacer au café.
Dans une chanson. Donc, c'est un... Non, mais le pire, c'est que c'est ça qui est terrible, c'est que c'est un super bon chiffre. Faut que tu nous le chantes maintenant.
Non.
Alors, moi j'ai justement un chiffre à vous proposer. Moi aussi. Le chiffre c'est 118.
118, 118.
J'allais dire justement, attention, je veux pas entendre 218.
118. C'est un rapport avec l'Espagne ?
Pas spécifiquement.
Avec la F1 ?
Avec la F1, oui.
C'est le nombre de pilotes qui ont postulé pour remplacer Schumi.
C'est pas loin. Ça doit en être la racine carrée ou un truc dans le genre, mais c'est pas loin. Mais c'est un rapport
un nombre
avec
de victoires ?
C'est pas un nombre de victoires.
Nombre de courses.
Un nombre de courses.
Qui ont eu lieu sans Badoer.
Oh, c'est beaucoup plus.
C'est pas à l'intervalle de 10 ans, justement ?
Non, l'intervalle de 10 ans, ça aurait fait beaucoup plus de courses. Ça aurait fait...
Ça aurait fait 170 voilà. Au moins.
Ouais.
Et bah 118, messieurs. C'est le nombre de grands prix depuis lesquels nous n'avions pas eu un seul Brésilien, enfin qu'un seul Brésilien sur la grille de départ d'un grand prix.
118, ouais. Tu dis ? Donc 118 divisé par 17, ça nous fait à peu près de tête 7 ans.
Ouais.
Donc 2002. Ouais. 2002, Cristiano D'Amata, il était là. Non, c'était en 2004, ça. C'était que Barrichello, de manière. Parce que Massa était pilote essayeur chez Ferrari.
Eh ben non, en 2002, Massa était pilote chez Sauber Petronas. Et il se trouve que la course avant le Grand Prix des États-Unis 2002, le pilote a été impliqué dans un accident qui lui a valu une sanction de la FIA.
Qui ça ?
Massa.
Oui.
Et Sauber, parce qu'ils n'étaient pas contents des résultats de Massa et parce qu'ils ne voulaient pas prendre 10 places sur la grille, l'ont fait remplacer au Grand Prix des États-Unis 2002 par un certain Ensaral Frentzen. Ce qui faisait alors que Barrichello était le seul pilote brésilien présent
chez Ferrari.
Chez Ferrari. Wow. Et il se trouve que, alors qu'effectivement, justement, l'absence du Brésilien, c'était, alors ici on a Piqué et Massa qui sont absents en 2008, mais à l'époque c'était déjà Massa, et il se trouve que Barrichello en 2002 avait déjà remporté la course, de façon tristement célèbre, puisque c'est Michael Schumacher qui l'avait laissé passer sur la ligne, si certains s'en rappellent, et que j'avais noté un autre truc. Non, je n'avais rien noté d'autre, donc c'est tout.
Eh bien moi j'ai un autre chiffre.
Oh, oh là là.
Non, c'était juste 5 courses, 5 victoires, 5 vainqueurs différents.
Donc, après le chiffre, après nos chiffres à nous, un petit retour sur l'actualité. On va essayer de faire court sur Michael Schumacher, si vous le voulez bien. On en a déjà pas mal parlé. Et donc, justement, pour vous lancer sur Michael Schumacher, je vais vous lire un mail qu'on a.
Non. On va pas parler de lui, on va l'appeler lui. Ça fait moins mal.
On va l'appeler Voldemort.
Parce que la dernière fois, j'ai réécouté l'émission où on parlait de Schumi. 10 Schumi, 20 Schumi, 30 Schumi. C'était les points. C'était terrible.
Et ça, finalement, ça lui a porté malheur. Hein.
Voilà.
Donc.
Et du coup, il sera pas champion du monde.
Voilà. C'est... Non. Donc, pour lancer le court dossier sur Michael Schumacher et son retour annoncé, j'aimerais vous lire un mail qu'on a reçu.
Nous avons choisi une lettre au hasard.
Voilà, grosso modo, la seule qu'on a reçue. Donc, c'est un mail que nous a envoyé Stéphane, qui est un nouvel auditeur, qui nous a découvert assez récemment et qui aime beaucoup l'émission et qui est très intéressé par l'émission. Et qui fait d'ailleurs une grosse campagne de pub pour laquelle je lui remercie parce que les statistiques du blog ont bien, bien, bien monté ces derniers jours.
Il est belge, non ?
Je sais pas du tout.
Ah, parce que moi j'ai eu beaucoup de visites belges dernièrement.
Donc, faudra lui demander, hein. Donc Stéphane, si tu es belge, envoie-nous des frites, un truc dans le genre, je sais pas. Alors je peux te dire par exemple qu'il est fan de Robert Kubica.
Ah, et... bah, on peut pas avoir que des talents.
Il travaille chez Renault, mais est fan de Williams.
Logique. Ah,
donc voilà. Donc je vous lis son mail, justement par rapport à Michael Schumacher. Mais pour moi la vraie question est pourquoi. Un mal de cou empêcherait Michael Schumacher de piloter pour Ferrari. A-t-il échoué au test d'esquive d'éléments mécaniques à Murano, ou cela l'empêcherait-il de voir correctement dans le rétro le pilote qui s'apprête à le doubler ?
Oh, c'est petit, ça.
Bon, derrière, quand même, pour un peu, pour pas qu'on les gratine trop non plus, il nous dit, sinon, je tenais à vous féliciter tous pour votre site et votre podcast.
Trop tard. Trop tard, le mal est fait.
D'une grande qualité et qui mélange savamment sérieux des infos et humour, ce qui, dans les deux cas, manque souvent au monde de la Formule 1 depuis quelques années. Encore félicitations à vous et longue vie au service après-vente de la Formule 1. Eh ben, Stéphane, je te dis merci.
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 Hein, bon. Pour Soumy, on va rediscuter, mais merci parce qu'on avait, on n'a pas eu encore de déclaration d'amour comme celle-là.
Non, mais quand on voit la qualité de cet auditeur, je pense qu'il vient de chez Enzo F1.
Donc alors, Schumacher, son histoire de coup, info, intox.
L'accident qu'il a eu au mois de mars, ça c'est pas de l'intox en tout cas.
Ouais, ouais. Non mais par rapport au fait qu'il revienne, est-ce qu'on en a pas fait trop par rapport à son retour? Est-ce qu'ils se sont pas précipités? Et
avant de répondre à ça, je me suis posé une question quand même, parce que quand on a annoncé son retour, il y a tout de suite eu un truc, c'était sa super licence. Parce que pour avoir la super licence, il faut qu'il ait couru dans des disciplines d'avant X cours, je sais plus, dans les 3 ans ou je sais pas quoi. Et donc c'était un peu limite, étant donné qu'il a pris sa retraite il y a 3 ans. Et après je me suis dit, eh ben dehors, mais comment on a pu lui donner sa super licence à ce mec-là?
Mais est-ce que lui l'a pas conservé d'année en année ou est-ce que...
En roulant.
Mais Schumi aussi il a roulé.
Oui, mais peut-être pas suffisamment de kilomètres.
Je sais pas. Bref, c'était pas la question, mais
non, mais c'est ma réponse.
C'est vrai que oui, ça pose.
Ça traduit bien un peu l'impression qu'on a sur ce retour et choix de Michael Schumacher, c'est que il y a de plus en plus de théories. Hein, on a eu des théories sur ton site, notamment Enzo, qui parlait effectivement du retour à un coup médiatique pour Ferrari. Voilà, ils se sont trop emballés, ou alors. Un coup médiatique de la part de la FIA pour rebooster un peu les ventes de billets de deux grands prix qui sont en difficulté, à savoir Valence et la Belgique, qui sont vraiment en difficulté depuis l'année dernière minimum.
Bah si vraiment ça va être le cas, ce qu'il faut savoir c'est que Ferrari, je pense, n'a pas besoin de coup médiatique. Des voitures ils en vendent, il y a pas de souci, elles sont toutes vendues en avance. Les tifosi ils sont toujours là. S'il y avait eu vraiment un coup médiatique,
ils nous ont prouvé ce week-end que effectivement pouvait mettre n'importe quel pilote dans la voiture.
Ouais.
Tout à fait. Non, mais s'il y avait eu un coup médiatique, ça aurait été Bernie qui l'aurait annoncé avant, quoi.
Oui, mais on a quand même Bernie qui déclare que lui, il a été surpris parce qu'il n'était pas au courant. J'ai quand même du mal à croire que Bernie ne soit pas au courant de quelque chose. Donc, ce qui est inquiétant, c'est que si vraiment c'est ça, pourquoi se concentrer que sur le choix de Badoer après ça? C'est-à-dire que peut-être que les mecs de Ferrari se sont mis à y croire, peut-être que Schumi s'est mis à y croire.
Moi, je pense que...
Parce que quand même, choisir Badoer, même si c'est pour le récompenser, il faut pas... Enfin, voilà, il y a quand même aujourd'hui des pilotes, il y a quand même des enjeux, on l'avait dit, il y a des enjeux pour Ferrari.
Je pense que, tu sais, il y a quelque chose qui est très important en Italie, c'est la presse. Et je pense que, bon, ils ont déclaré Schumi. Et après, pour pas que ce soit la catastrophe, et... D'ailleurs, ils ont annoncé Badoer tout de suite après, quoi, pratiquement en même temps, quoi, que Schumi annonçait qu'il venait pas. Et je pense que ça a été pour apaiser la presse, que tout de suite ils ont dit, allez, c'est un Italien. Ok, c'est pas Schumi, mais les gars, c'est un Italien.
Mais bon, ouais, en gros, résultat quand même, aujourd'hui, toute la presse italienne se fout de la gueule de Badoer et Ferrari avec. Et ça,
la presse est versatile, hein.
Donc, il y a quelque chose, il y a quelque chose de pourri au Danemark, comme dit l'expression. Moi, je sais pas, cette histoire-là, oui, mais c'est l'expression.
Oui,
mais t'as jamais lu Shakespeare, Enzo. Voilà.
Excuse-moi, j'ai jamais lu Shakespeare.
C'est vrai qu'il y a sans doute eu un vrai emballement.
Mais même nous, on s'est emballés, hein. Il y a qu'à voir la dernière émission, hein.
On a été très prudents, nous, hein, quand même, hein. Très prudents, très, très pro, à pas monter ça en épingle et tout. Non, on a été assez modérés, assez pondérés sur ce sujet-là.
Voilà.
Dès l'annonce, il a été évoqué justement, ces problèmes de cou et les séquelles de l'accident.
Oui, c'est vrai.
Souvenez-vous.
Mais c'était quand même dans.
Donc c'était pas une surprise.
C'était quand même dans un discours d'ensemble. Alors il y a aussi eu le fait qu'apparemment entre Sabine Kemp, qui est la porte-parole de Michael Schumacher, et Willy Weber, apparemment les deux s'entendent pas très bien. Et donc il y a aussi eu apparemment une bataille entre les deux sur cette histoire-là, ce qui fait que ils arrêtaient pas de se contredire dans la presse. Donc je pense qu'effectivement il y a eu tout un emballement médiatique autour de ça, et je pense que ils n'ont pas réussi à réimposer le message de attention, attention, on n'est sûr de rien. Et l'erreur de Ferrari, ça a été de dire tout de suite, oui, on va faire rouler Michael Schumacher à Valence. Ils auraient dit, on étudie la possibilité, je pense qu'il y aurait eu moins de pataquès. Mmh. Parce que là, ça ressemble quand même à un désastre. C'est même...
Mais c'était difficile de l'annoncer sans que ça s'emballe.
Oui, non mais tu dis, voilà, oui, effectivement, on reconnaît la possibilité du retour de Michael Schumacher à Valence, mais attention... il y a rien d'officiel, il a des examens à passer, on aura la réponse que la dernière semaine avant le Grand Prix. Ils disaient ça.
C'est un peu ce qu'ils ont fait quand même.
Oui, non mais ça, au départ ils ont dit Schumacher va rouler à Valence, et après ils ont fait un communiqué comme quoi, enfin Michael Schumacher a fait un communiqué comme quoi, attention, j'ai des problèmes de cou, faut que je fasse des examens, etc. C'est pas Ferrari qui a fait ça. Et après face à l'emballement médiatique, et puis aussi je pense, c'est là où je pense aussi que tout le monde s'est laissé aller, et même la FOM avec Bernie Ecclestone, c'est quand ils ont vu que dès le premier jour les billets pour Valence et pour Spa étaient en train d'exploser, ils se sont dit bon bah on va faire prolonger le truc, donc je pense qu'ils ont joué le truc un peu trop longtemps et qu'ils se sont laissés emballer par cette histoire. Et moi c'est ce que je disais la dernière fois. Moi, j'étais soucieux sur le retour de Schumacher d'un point de vue sportif parce que je voulais pas non plus que Michael revienne alors qu'il avait été superbement sorti. Certes en perdant son titre, mais en offrant une course qui dans les cœurs de ses fans est sans doute l'une des plus belles courses de sa carrière. Et là, bah dans la biographie de Michael Schumacher, il y aura toujours cette dernière ligne qui sera jamais vraiment très reluisante. Mmh. Et là, on parle d'une troisième voiture avec Michael Schumacher alignée avec Fernando Alonso et Kimi Räikkönen.
Ouais, ça, la troisième voiture.
Donc voilà.
Moi, j'ai toujours mon avis. Je pense que son retour n'est pas impossible encore.
Ah, c'est comme tout, hein, c'est le coup qui va décider.
Mais voilà.
En même temps, tu vois, si les douleurs sont là depuis 6 mois, est-ce qu'en 2 semaines, alors bon, c'est vrai que là, sachant qu'il peut revenir en F1, peut-être qu'il va mieux se préparer.
Oui, c'est clair.
Mais ce qui est inquiétant, c'est que on peut. Ce qui est inquiétant, et ce qui est aussi un hasard, une circonstance assez bizarre, c'est que Michael Schumacher, on le sait, c'est pas une simple chute apparemment qu'il a eue, c'est une fracture du crâne.
Ah, il a même été dit que c'était l'accident le plus grave de sa carrière, en fait, de sa vie.
Et on se rappellera quand même que ce qu'a eu Felipe Massa, c'est aussi une fracture du crâne.
Oui.
Et que aujourd'hui c'était GP Week qui est un hebdomadaire sur la Formule 1 assez réputé, qui a pour eux, ils ont affirmé, ça vient à l'autre point d'actualité chaud de ce moment, qui a affirmé tout simplement que Fernando Alonso irait chez Ferrari l'année prochaine, que c'était juste une question de déclaration maintenant, que tout était signé. Mmh. Et il présente donc 3 potentiels coéquipiers. Selon leurs sources, parce qu'ils ont des sources apparemment proches du dossier, donc Fernando Alonso sera chez Ferrari en 2010.
Ouais.
L'annonce aurait dû être faite à Monza, sauf que effectivement,
comme d'habitude, ouais.
En rapport avec l'accident de Massa, ils préfèrent attendre. Donc on aura sans doute une annonce un peu plus tardive. Et donc à partir de là, le seul enjeu apparemment chez Ferrari désormais, ça serait de savoir qui sera son coéquipier. Donc apparemment, selon les sources de GP Week, hein, donc voilà, qui officialise, mais on va quand même garder le conditionnel. Selon leurs sources, Felipe Massa aurait la priorité.
Sans doute, hein, c'est ce que tout le monde dit.
Mais ouais. Justement, le fait de l'état de santé de Felipe Massa, c'est aujourd'hui c'est Felipe Massa qui a les clés du marché. Si Felipe Massa revient avant la fin de saison ou en 2010, ça sera chez Ferrari et donc on aura un autre échiquier. Si Felipe Massa ne revient pas, ça libère un baquet chez Ferrari. Et à partir de là, il y aurait 3 hypothèses. La première, c'est garder Kimi Räikkönen, ce qui ferait économiser à Ferrari 28 millions de dollars à retour de contrat. La deuxième hypothèse, c'est Michael Schumacher.
Ouais.
Ça serait du duo Ferrari, un duo mythique, hein, à l'image de Senna Prost à la fin des années 80. Les gens vont croire que je pompe les articles de F1 Central. vous avez vu comment je fais la pub à F1 Central? Donc là, le même problème, c'est effectivement, c'est l'état de santé de Michael Schumacher, ce qu'il pourra le faire ou pas. Et il y a aussi l'hypothèse qui pourrait être assez intéressante de Robert Kubica.
Il n'y a pas Badoer,
c'est bizarre. Hein.
Ouais.
Bizarre. Non, Kubica, on n'en veut pas chez Ferrari, quoi. Il est mauvais.
Oh.
Je dis ça juste pour répondre à notre auditeur.
Ouais, c'est vrai. Non, alors moi c'est ce que j'ai dit dans un échange de mail avec Stéphane. Je lui ai dit, j'aime beaucoup Robert Kubica en tant que pilote. Malheureusement, je trouve qu'il nous a montré au niveau du tempérament que quand il a pas une bonne voiture et qu'il est un peu capricieux, quand il a pas une bonne voiture, il se sort pas du tout les doigts du cul.
Il s'assied dans le Kimi dans ce gars-là.
Mais c'est même pire que Kimi. Alors Kimi, le truc c'est qu'il est lassé, mais t'as l'impression que Robert Kubica, c'est voilà, la voiture ne marche pas, je vais pas me faire chier, je vais monter dedans, je vais faire des tours et c'est tout. Kimi, t'as quand même l'impression, tu dis quand même, voilà, il pilote pour lui, bon, il s'en fout du reste, il s'en fout de gagner, etc., parce que la voiture l'intéresse pas. Mais il est dans sa bulle, c'est du Kimi. Alors que Robert Kubica, c'est quand même les deux extrêmes, quoi. C'est quand même un mec qui est extrêmement exigeant et qui, à l'inverse, dès que sa voiture fonctionne pas, il arrête de tout faire. Donc voilà. Ça, c'est pour les transferts. On peut aussi mentionner dans les transferts la rumeur Kubica chez Renault.
Je pense qu'elle est plus réaliste que chez Ferrari.
En doute, oui.
Alors, USF1, l'équipe américaine, va avoir un partenariat avec YouTube.
Oui, ça, sans fin. Ça se disait depuis longtemps.
Ce qui pourrait être une bonne nouvelle pour les fans de Formule 1, puisqu'on pourrait peut-être avoir des négociations avec la FOM pour avoir des contenus sur YouTube, des contenus exclusifs sur la vie de l'équipe, etc. Plus de documentaires, plus de... Donc assez intéressant.
Ah bah, ils avaient dit qu'ils voulaient faire une équipe assez ouverte.
À l'américaine. D'ailleurs, en parlant d'équipe ouverte, on a eu ce week-end les pilotes Renault qui ont été mis à l'amende par la FIA parce qu'ils ne s'étaient pas présentés à une séance d'autographe. C'est une des nouveautés consenties par les équipes cette année, à savoir être plus proche du public en faisant des interviews pendant les qualifications, etc., et notamment en faisant des séances d'autographe obligatoires. Toujours sur USF1, on a appris que Sébastien Loeb avait contacté USF1 pour l'année prochaine.
Waouh !
Que pensez-vous de l'hypothèse Sébastien Loeb? A-t-il ses chances en Formule 1? A-t-il la capacité, le talent? Et puis, est-ce qu'à 35 ans, commencer en F1, c'est une bonne idée?
Bah, qui demande à son pote Bourdais?
Voilà.
Ou à Luca Badoa?
Oh, salaud.
Ouais, je pense que sur des essais, oui, il est rapide. Ça, je n'en doute pas. Maintenant, être vraiment pilote...
Non, il n'est pas rapide. Je veux dire, il a signé des chronos qui étaient acceptables, mais on peut
mais
pas
voilà,
dire
que...
Mais voilà, c'est pareil. On a bien vu ce week-end avec Badoer que signer des chronos acceptables et faire un Grand Prix de Formule 1, c'est totalement différent.
C'est clair.
C'est deux métiers totalement différents. Et c'est le truc, c'est quand même... On va en revenir sur Badoer, mais Badoer, c'est plus un pilote de Formule 1 aujourd'hui. C'est un pilote essayeur de chez Ferrari. Et ces dernières années, il essaye plutôt les voitures routières que les F1, donc...
Et je me demande, c'était Campos là qui voulait embaucher de la Rosa.
Ouais.
Et ben quand ils voient Badoer, ils sont peut-être en train de se dire c'est peut-être pas une bonne idée.
C'est pas faux. Campos qui est sur de la Rosa, qui était surgêné mais apparemment la piste s'est refroidie et qui serait aussi là pour la mallette à dollars sur Vitaly Petrov qui apporterait un budget, je crois, de, si je me trompe pas, 15 millions de dollars avec.
C'est un Russe lui.
Ah ouais.
C'est un Russe. Et
oui. Son nom.
Donc voilà, sur les transferts, qu'est-ce qu'on peut dire? Ah oui, que j'y pense dans ma tête. Pour vous rappeler à vous, chers auditeurs, que vous pouvez, on a lancé de façon très discrète.
Ouais.
On n'en a pas parlé pendant l'émission. On a lancé au début du mois d'août un concours de pronostics sur le plateau 2010. Donc, ce concours, c'est simple, c'est essayer de nous dessiner la grille de départ 2010 telle que vous l'imaginez. Vous avez jusqu'au 31 août, donc c'est-à-dire que le 31 août, c'est là où se jouent les options, etc. Donc c'est là où vraiment s'ouvre le marché des transferts. Vous nous faites votre plateau 2010, équipe par équipe, avec vos deux pilotes, peu importe l'ordre. Vous nous l'envoyez par mail, et puis quand on aura le plateau 2010, je pense dans la première émission de la saison 2010, On fera un classement et puis celui qui aura accumulé le plus de points, qui aura été le plus proche de la vérité, aura un cadeau qui ne sera pas un magnète, qui sera quelque chose d'un.
Et au passage, Yannick, sur le site, il faudra que tu actualises la page des transferts, parce qu'il y a encore la page pour BM. Enfin, il y a la rubrique BM.
Shinji, ça fait un mois que j'ai pas actualisé, ça fait un mois que je travaille pour F1 Central. Hein. F1 Central, un très bon site d'actualité Formule. Donc. Toujours dans l'actualité, le retour du Canada.
Oui, bonne nouvelle.
Est-ce que c'est une bonne nouvelle pour Villeneuve?
Non. Ça fait plaisir et puis tout le monde voulait revenir en Amérique du Nord. Donc voilà, tout le monde est content.
Ouais, même si j'ai des réserves.
Ouais.
parce que quand même, faut quand même se souvenir du dernier Grand Prix, les deux derniers Grands Prix.
Il faut la refaire la piste. Hein.
Mais le pire, c'est qu'à chaque fois ils la refont et ça tient pas. Donc, ouais. Il avait déjà refait en 2007 la piste à pas tenu. Ils ont été obligés de compléter ça au ciment en pleine nuit. Donc voilà.
Il y a aussi eu d'autres confirmations au niveau calendrier.
Alors lesquelles?
Alors il me semble que Suzuka pour le Grand Prix du Japon, il y a eu une signature de contrat.
Oui, jusqu'en 2011.
Et Valence, je crois jusqu'en 2014. Ça fait mal, hein, 2014.
Alors, oui. Bernie Ecclestone nous en a sorti une bonne pendant les vacances. Apparemment, lui aussi se nuyait et apparemment, effectivement, lui peut pas pencher, il peut pas coucher sur le papier ses sentiments par rapport au retrait de Michael Schumacher. Et apparemment, je pense qu'il ne veut pas savoir chanter, donc il nous invente des trucs. Et il nous propose, à l'avenir, de faire une intermittence entre Spa-Francorchamps et le Nürburgring pour le Grand Prix de Belgique, ou de je sais pas quoi.
Qu'il aille crever.
Alors, je vais le défendre.
On avait déjà proposé quelque chose comme ça dans le bouquin. Il y avait le Grand Prix des buveurs de bière, voilà. Qui serait alternativement entre l'Allemagne, la Belgique et l'Angleterre. Il y avait le Grand Prix de Principauté, qui pourrait être soit Monaco, soit Imola, soit Andorre, on avait dit. Et le Grand Prix, qu'est-ce que c'était, franco-américain à Disneyland, Paris.
Donc vous en pensez quoi de ce scénario proposé par Bernie Ecclestone?
Bah, il n'y a pas photo de toute manière. Il y a un circuit qui est beau et l'autre pas, donc on voilà. Est forcément contre.
Alors... Moi, c'est pour avoir étudié le dossier de près, entre guillemets. Le point de vue de Bernie, en fait, il est assez intéressant et il est pas bête, en fait, parce que il dit plutôt que de perdre deux grands prix qui vont être en difficulté financière, puisque Spa-Francorchamps connaît depuis des années, on le sait, des difficultés financières, et on le voit là aussi, il a fallu annoncer le retour de Schumacher pour que les billets se vendent, parce que c'est vrai que ça se vend pas très bien. Et donc lui, ce qu'il suggère, c'est qu'il dit effectivement, comme Spa et Nürburgring sont assez peu distants au niveau kilométrique, ils sont à quelques dizaines, voire quelques centaines seulement de kilomètres, il y a donc concurrence entre les deux. Un fan de Formule 1 qui va se dire, voilà, cette saison, je vais me faire un Grand Prix, parce qu'il a, comme budget, il a 500 ou 600 euros, il peut pas se permettre plus. Donc il va choisir entre les deux, il peut pas aller aux deux. Donc ce qui fait que les deux circuits se marchent sur les pieds l'un de l'autre. Donc lui, ce qu'il propose, ce qui n'est pas bête, c'est effectivement de se dire, plutôt que les deux circuits se meurent chacun de leur côté, autant leur permettre, une année sur deux, d'assurer la présence d'un Grand Prix de Belgique et d'un Grand Prix au Nürburgring, qui pourrait être un Grand Prix du Luxembourg ou une cochonnerie dans le genre.
Mais ouais. tu l'assures beaucoup mieux, justement, si t'as une course tous les ans. Mais... Si t'as une course tous les deux ans, les investissements, ils mettent deux fois plus de temps. Hein,
les déséquilibres financiers, on sait d'où ils viennent.
Oui, mais, oui.
C'est le prix des billets.
Il y a ça, il y a le prix des billets, il y a aussi le prix que demande Bernie, mais on connaît Bernie aussi.
Oui, c'est ça.
On connaît Bernie aussi, c'est l'argument de Bernie. Mais est-ce qu'il voudrait pas mieux, effectivement, sur certaines courses, pour permettre la survie, de se dire, voilà, on l'organise qu'une fois par an, mais au moins une fois par an, les gens viennent, il y a cette espèce de sensation de manque, ce qui fait que les gens vont venir en disant, tiens, c'est le Grand Prix de Spa, on va le voir, on va y aller, parce que on le verra pas avant deux ans, donc...
Faut aussi dire qu'il y en a un peu marre, parce que c'est toujours un peu les mêmes qui trinquent. Parce que dans ces cas-là, autant alterner Valence où on se fait chier, et la Catalogne où on se fait chier.
Mais eux, ils payent. Et il y a le public espagnol.
Ah, pas complètement.
Oui, non, mais au moins à Barcelone. C'est vrai qu'à Valence, c'est pas terrible parce que bon, les installations sont pas top. Mais au moins à Barcelone, le public, il est tout le temps là et il y a toujours ce qu'il faut. On est bien d'accord, ça fait trop de grands prix. Hein. Deux en Espagne, c'est beaucoup trop. On l'a vu ce week-end.
Venant ça de Bernie, ça fait un peu excuse pour pas voir la vérité, quoi.
C'est vrai. En même temps, c'est Bernie.
Voilà.
Alors sinon, est-ce qu'on revient sur l'état de santé de Felipe Massa?
Oui, bah, il va bien.
Ouais, moi j'aimerais juste quand même dire un truc. Moi je trouve qu'on en a un peu trop fait sur son accident. Parce que moi je vois par exemple la semaine dernière j'étais en scooter et je me suis pris un gros insecte dans la visière. j'ai rien eu du tout. Je me suis pas évanoui, je suis resté lucide et j'ai continué ma route.
Il faisait 800 grammes ton moustique.
Donc non mais attends.
Alors attends,
je pense avoir prouvé ma bravoure. Hein. Donc si Dominique Ali nous entend, eh bien je suis prêt à prendre la place de Baldover pour le prochain Grand Prix.
Et puis, qu'il se rassure, hein, j'ai pas peur de me ridiculiser, hein, la preuve, je fais des émissions en reprenant des vieux tubes des années 80, donc je ne risque rien de ce côté.
Je note, hein, Enzo est le 73e candidat au poste, hein. Ok, c'est noté. Donc oui, Massa, dont les nouvelles sont assez bonnes, il va passer des examens vendredi qui pourraient être assez déterminants. Il va aller à Miami, où il va donc passer des nouveaux examens et qui pourraient effectivement l'indiquer sur ses chances de repiloter. Lui, en tout cas, apparemment, il semble à fond et il veut revenir. Il avait raison, dès le Brésil. Donc voilà, les nouvelles sont plutôt bonnes. C'était assez alarmant au départ et puis bon, bah, on se rend compte que il s'en remet bien d'accident, il a le moral et tout.
Moi, je dis pour l'instant, il n'a pas repris le moindre volant, il n'a pas fait le moindre sport. Je pense qu'il faut rester prudent quand même. Hein.
Tiens, on parlait tout à l'heure de Valence. Donc, tu disais que Valence a été prolongé. Il s'est murmuré ce week-end dans le paddock qu'il pourrait tout simplement dégager.
Ouais, mais finalement...
Et que il pourrait aussi être remplacé comme Grand Prix d'Europe par un autre circuit qui serait celui de Silverstone.
Donc Silverstone, oui, en Grand Prix d'Europe, bah, si ça peut sauver...
Attendez, désolé, mon téléphone qui sonne. Allô, oui.
Bonjour, on est bien en service après avoir de la Formule 1 ?
Oui, on peut faire quelque chose pour vous ?
Oui, et pas qu'un peu.
Allez-y, chef, vous êtes le meilleur !
Oh, tais-toi, on parle en trop grand, là, petit. Alors voilà, je représente le front de lutte contre les trophées tout pourris en Formule 1.
Non, le front de lutte contre les trophées tout pourris en Formule 1, ça c'est nous.
Ah non, comment il vous répond ?
Mais tais-toi, petit.
D'accord, chef.
Ou alors, je m'explique. Vous, c'est la FLCTP F1, et nous, c'est la FLCTP FU. On n'aime pas les trophées tout pourris comme vous, sauf qu'on est aussi membre de la LPCC LGPF.
La quoi ?
La LPCC LGPF, la Ligue de Protestation contre les chiffres dans les noms de groupes protestataires sur Facebook.
Ah, d'accord. Et en quoi on peut vous aider ?
Bah voilà, vous nous faites de la concurrence avec vos groupes Facebook, là.
Oh, voyons, on a que 6 membres.
Non, vous en avez 8.
Ah ouais, mais bon, ça ne rate pas beaucoup quand même.
Ouais, bah, c'est toujours 3 de plus que nous.
Et encore, chef, c'est parce qu'on a enregistré plusieurs identités, hein. Sinon, il y avait 2 membres, hein, et c'était nous.
Ouais, bah ça, ils sont pas obligés de le savoir, petit.
Mais écoutez, y a pas de problème, si vous voulez, on peut fusionner, puisqu'on partage le même combat.
Impossible! Vous mettez des chiffres dans vos noms de groupe sur Facebook.
Ah, la LPCC NGPF, c'est ça?
Ouah, vous le dites bien! Moi, il m'a fallu 3 jours pour arriver à le dire sans me planter. Et encore, hein.
Mais t'es pénible, toi!
Désolé, chef.
Bon alors, j'en étais où? Tu vois, à chaque fois que tu me coupes et je perds le fil. Ah voilà. Alors, on voulait vous dire qu'on rend les armes, d'accord? On vous la laisse, la lutte contre les trophées tout pourris.
Bah vous savez, c'est pas très sérieux tout ça, c'est juste pour le fun.
Pop, on a suivi vos dernières émissions là, hein. 2 drive-thru pour critiquer les trophées, si c'est pas du militantisme ça, moi je m'y connais pas.
Écoutez, on est en train d'enregistrer l'émission là, est-ce qu'on peut pas se rappeler plus tard et en rediscuter?
Non, mais je vais être rapide là, enfin, surtout si Hatchoum ne m'en coupe pas la parole là. D'accord, alors tu te tais, d'accord, tu pars plus là.
Vous inquiétez pas, chef, Motus et Bouche Cousue, je prépare les tracks pour le nouveau groupe Facebook.
Un nouveau groupe Facebook?
Oui, le MABV PQCCFFVQ. Le mouvement d'appel au boycott de Valence parce que ce circuit, franchement, voilà quoi.
Ouais, oh shit Valence, oh shit Valence, oh shit.
Ouais, c'est bien petit, t'as raison.
Ah bah là, vous devez avoir des membres alors.
Non, même pas. Mais bon, on voulait juste être sûr que vous ne formiez pas votre groupe aussi par rapport à Valence. Parce que sinon, on peut toujours créer un groupe de promotion du podium de Monaco, si vous voyez où je veux en venir.
Ah non, hein, on n'est pas à vous y mettre, vous aussi, hein. Il était tout pourri, ce podium, et j'y peux rien.
Ouais, bah, vous savez quoi faire pour éviter qu'on crée ce groupe. D'accord?
Mais on vous le laisse, le groupe sur Valence, on vous le laisse, y a pas de problème, on est généreux, nous, on est entre internautes, là, d'accord? On vous le laisse, faites-le, votre groupe, hein, d'accord? Mais vous touchez pas à Monaco.
Hein, y'a intérêt. Mais de toute façon, on vous rappellera. Allez, salut!
Il m'a raccroché au nez. Vous croyez ça? Il m'a raccroché au nez, mais là. Mais on vit dans une époque.
J'y crois pas.
Dans une époque.
Oh.
Je vous raconte pas.
Et moi, j'adhère, moi, au groupe contre Valence.
Ah, mais non. Attends, le mec qui me menace pour le Grand Prix de Monaco, là, oh.
Eh, c'était une pas mauvaise idée, ce groupe. Je vais peut-être le créer,
ça. Ah, bah, je suis désolé. Attendez, j'éteins mon portable, voilà. Je suis désolé, hein. Pourtant,
ouais, c'est pas sérieux.
Mais, pourtant, à chaque fois, je prévois de l'éteindre, et puis là, j'ai pas éteint. À quoi que la dernière fois.
Mais mets-le au moins sur vibreur.
Ouais, mais après, ça me perturbe quand ça sonne. Voilà, c'est éteint. Non, mais ce que je crois en plus, c'est qu'ils vont rappeler. ils le disent à la fin, ils vont nous rappeler, ça m'énerve.
Non mais si on bouge pas, ils ont pas de raison d'appeler.
Ouais, c'est vrai. De toute façon, j'ai été à mon portable, donc ça risque plus rien.
Voilà.
Donc, après cette tentative terroriste de détournement de notre émission, je vous propose de passer à la qualification.
Oui.
Lewis Hamilton en pole.
Bien.
Bah,
non, autant ça m'a fait dire la première fois quand il a gagné, autant là ça m'énerve.
J'ai crié. Ah là ouais, se faire dépasser par les grilles comme ça.
Ah ouais, non mais sérieux, enfin, en même temps, maintenant on a une bonne raison. Je dis maintenant faut garder Badoer. Mais on pouvait pas finir le McLaren en galère, on avait Badoer avec nous, on pouvait pas. Donc, tiens d'ailleurs, on vient de lire déclaration de Kimi Räikkönen, la troisième place sera dure à obtenir. Eh ben je confirme.
Tu m'étonnes.
Donc Lewis Hamilton, ces petites statistiques de pole là, c'est combien?
Dixième? Ah non, c'est sa dixième victoire, voilà. Pardon.
Ouais, il a fait plus de pôles, je pense.
Quatorzième pôle.
La combienième de... Oh, c'est pas la première pôle de Mercedes cette saison.
Ah non.
Vous vous rendez compte quand même, on a failli... Si Red Bull passe au moteur Mercedes, cette année, on aurait eu que des pôles Mercedes.
Voilà.
Ah, ouais.
Ça me déprime.
C'est la 75e pôle de Mercedes.
Paul qui aurait pu lui échapper parce que Kovalainen avait l'air beaucoup plus rapide que lui. Il a échoué à très peu alors qu'il était plus lourd que.
Il avait 2 kilos de plus.
Bah, c'est quand même important.
Hein. Ah, mais tu me dis, il est plus lourd, je te dis oui, il a 2 kilos de plus.
Surtout quand tu tiens compte du facteur Hamilton qui donne quelques dixièmes en plus à la voiture. Donc, effectivement, il était à moins d'un dixième de Hamilton et sans une petite erreur dans les derniers virages. Il aurait pu signer la pole. Troisième Barrichello qui se qualifie devant Button. Button ouais. Qui est lointain. Oh putain, il est loin Button.
Mais tous avec pas mal d'essence quoi.
Et Barrichello gros scot justement avec son essence.
Oui. Ouais, tout à fait.
Dès la qualif.
C'est là qu'il a commencé à construire sa victoire.
Exactement.
Mais globalement, de toute façon, les Browns, elles ont apparemment, alors, ils ont diagnostiqué le problème. Hein. On s'inquiétait de la capacité à Brown de faire des développements. Alors, ils ont développé comme des malades, sauf que ils ont dépensé de l'argent pour rien, parce qu'apparemment, les développements n'apportent rien. Donc, ils sont revenus à l'ancienne voiture. Hein, ils ont retiré tout ce qu'il y avait retiré, et la voiture marche super bien.
Réellement?
Ouais, non, mais c'est vrai.
Et ouais, ils ont dit qu'ils repartaient dans le bon sens.
Ils repartaient.
Tu veux dire qu'ils ont fait une Toyota?
Grosso modo, oui, c'est ça.
En fait, ils ont fait comme Toyota à Barcelone.
Voilà.
D'ailleurs, on a oublié de dire dans l'actualité que Trulli était donné partant de chez Toyota.
Oui, Toyota aussi est donné partant de chez Toyota.
De chez la F1.
De chez la F1. Ouais.
D'ailleurs, même Glock en a parlé en disant que lui, il n'était pas sûr et qu'il avait demandé à son manager de chercher d'autres possibilités l'année prochaine. Peut-être chez Ferrari. Hein.
D'ailleurs, la FIA veut sélectionner deux remplaçants pour BMW.
Ah oui, carrément.
Puisque justement, ils ont peur que... On dit même que Campos c'est peut-être en difficulté. Hein.
Bah, il y a Campos, il y a Manor.
Manor,
parce que Campos, ils ont signé en plus des accords avec les sponsors. Ils ont signé avec Telefonica et avec BBV Bank, je crois.
C'est plus Manor qui est en difficulté.
Mais Manor, on se pose des questions depuis qu'ils ont été choisis.
Voilà.
Oui. Et donc, du coup, on entend parler de...
ProDrive.
Comment il s'appelle?
ProDrive.
Et Epsilon Euskadi.
Voilà.
Tout cela en sachant que afin de pouvoir mieux vendre l'équipe, BMW Sauber s'est quand même inscrite au championnat 2010. Parce que s'il ne s'inscrivait pas, il perdait les 40 millions de l'inscription. Donc le racheteur devait payer 40 millions. Donc ils se sont dit, on va prendre le risque, on va s'inscrire. Ils ont payé les 40 millions en disant, voilà, comme ça, le repreneur a déjà une épine de moins dans le pied.
Tout à fait. Hein.
Donc voilà, ça c'était juste une parenthèse, on a oublié d'en parler. Toujours en qualification, donc Sébastien Vettel qui était discret jusqu'à la qualification réalise une belle quatrième place.
Après avoir fumé un moteur.
Après avoir fumé un moteur.
Hein. Et un de plus, on en reparlera.
On va parler de Kimi Raikkonen juste pour souligner la différence avec Luca Badoer. C'est un peu méchant.
Avec qui?
Avec Luca Badoer. Enfin, avec
c'est méchant.
Avec l'autre.
Avec l'autre.
Voilà.
Les gens se disent là ils sont méchants avec Badoer. Mais vous allez voir, on va en parler plus tard.
Donc voilà. Ah non, là on est gentil.
Donc Kimi Raikkonen qui a été plutôt bon ce week-end, assez discret vendredi, mais ça de toute façon il l'avait expliqué lui que vendredi on pouvait pas juger, qui réalise une belle sixième place en sachant qu'il a quand même pas mal descendu dans la voiture. Donc voilà. On peut noter aussi Mark Webber qui ne se classe que 9e.
Oui, un peu décevant.
Globalement, les Red Bull, bon, on s'en doutait, qu'elles seraient décevantes.
Elles n'étaient pas
prévues. Et...
elles sont attendues surtout sur la fin de saison. C'est sur la fin de saison qu'il va falloir
Là, à partir de maintenant,
je pense que ce week-end, effectivement, on saura exactement ce que vaut vraiment le duel. On peut quand même saluer le travail des BMW Boys.
Ouais.
Oh, comme c'est bien dit.
Et qui ne désespère pas. D'ailleurs, j'ai une petite pensée pour Florent qui nous écoute. Hein, on pense à toi. Parce que lui pourrait écrire une chanson sur BMW. Et donc, BMW qui réalise une bonne qualif. Voilà, 10 et 11, tirs groupés. Ils échouent en Q2, mais c'est bien meilleur que ce qu'ils ont fait.
Souvent des tirs groupés chez BMW, ouais. J'ai remarqué.
Et surtout que bah, dans l'objectif de vendre ou de permettre à l'écurie, il faut que quand même ils montrent le niveau de BMW. Et puis BMW apparemment a des ambitions de bien finir la saison.
Ouais.
Bon, ils demandent à voir. À souligner pour l'ensemble de son œuvre ce week-end aussi Adrian Sutil, meilleur lors des essais libres 3 et qui réalise là une très belle prestation puisqu'il se qualifie 12e.
Oui, bah, on voit. Alors, c'est Force India qui progresse, qui s'approche des points. Là, on a l'impression qu'ils les ont en point de mire, vraiment.
Ça va finir par tomber.
Mais voilà. C'est ce qu'on leur souhaite.
Ouais. On s'en va un peu en Mercedes, ça va.
Arrêtez, l'année prochaine déjà, je me vois toute une ligne en gris. On va revenir à la télé noir et blanc à cause de Mercedes. elle est bonne cette vanne, je vais la garder. Donc, aussi, deux places derrière Romain Grosjean. Qui réalise une 14e place. Il se murmurait dans le paddock que l'objectif de Grosjean sur les trois prochaines courses était de se qualifier au moins une fois en Q2 pour mériter sa place. Ça c'est fait, voilà. Objectif maintenant Q3. Il n'a pas d'ailleurs été très très loin de la Q3. Il est qu'à 3 dixièmes et à quelques secondes de la fin des qualifs, il était 11e. Il était 12e juste derrière Alonso qui était 11e. Alonso a réussi à sortir un tour à la Alonso dans les derniers instants. Grosjean, qui connaît pas, qui est sur un circuit routier, qui fait ses débuts, etc., nous sort là, à mon avis, une très belle prestation.
Il devrait être meilleur à Spa encore.
Oui. Et donc, tiens, j'avais pas noté celui-là. Yarno Trulli.
Ouais.
Qui a signé un record cette saison, puisqu'il a embarqué, écoutez bien, ce poids de sa monoplace faisait 707 kilos.
Il a grossi pour avoir été.
Autant dire que cette saison, il n'y a jamais eu une voiture qui s'est lancée de la grille de départ avec autant de poids.
Il s'entraîne pour l'an prochain. Le problème, c'est qu'on n'est pas sûr qu'il y sera.
Mais c'est vrai que c'est pas con ce que tu dis là. Non, mais c'est vrai que c'est pas con. À la limite, les mecs qui sont qualifiés au-delà de la 10e place, autant qu'ils partent avec vraiment des gros plats.
Yeah.
Genre un mec comme Badoer, là, c'est, par exemple Badoer qui est à la masse, ils l'ont fait rouler en course sur une stratégie à 3 arrêts. Pour se dire, il va aller plus vite, il va être moins
ridicule. Non.
Il était sur 3 arrêts.
Non, que 2. Il en a fait 3 parce qu'il a abîmé sa voiture au début, mais il était sur une stratégie à 2. Hein.
Ils étaient sur une stratégie à 2, mais ils l'ont changé en 3 arrêts. De toute façon, quand je ferai les petits stats, tu verras qu'il est très rapide. Donc il n'a pas passé tant au stand.
Il est très rapide? Non, ses mécaniciens sont très rapides.
Ouais, voilà.
Vous savez ce qu'il s'est dit, hein? Qu'il a été plus rapide dans les stands que sur la piste.
Oui, c'est vrai.
Il s'est pris 3 excès de vitesse.
4.
4.
Attends, c'est quand même le seul qui arrive à se faire doubler dans la sortie des stands.
Ouais. Qui laisse quand même passer les voitures comme un grand. Hein. Vous avez remarqué, hein, il se décale hein, bien pour que la voiture lui double.
Mais justement, Luca Badoer, si vous voulez bien, on y reviendra après la course.
Ouais.
On fera un peu un bilan et on parlera là vraiment du cas Badoer. Petite statistique sur les qualifs. Eh ben, en 2009, donc les pilotes dans la seconde, combien y en avait-il d'après vous?
15. En Q1?
Ouais, en Q1.
En règle générale, je sais pas, 13, 14, ouais, 15.
Eh ben, 15, c'est pas ce que ça, il y en avait 16, et il y a même mieux. Ils étaient 16 en une seconde exactement.
Ah ouais?
Le 16e était une seconde directement derrière le premier. Voilà, c'est la première fois qu'on rencontre ça. Donc effectivement, l'écart entre les 16 premiers en 2009 en Q1 était de 1 seconde pour 1. En Q2, l'écart entre les 10 premiers, puisque c'est celui qu'on prend depuis le début qu'on fait cette statistique, était de 706 millièmes. Donc voilà, un écart un peu plus important que dans la moyenne de la saison, mais ça c'est normal, on est sur circuit urbain. C'est en plus un très long circuit avec pas mal de virages. Donc c'est assez logique. Cependant, cette saison, eh ben l'écart était plus important que l'année dernière.
Ah.
Puisque l'année dernière, il y avait toujours 16 pilotes en une seconde dans la Q1, mais ces 16 pilotes, ils étaient concentrés en 932 millièmes.
Ah ouais.
Et les 10 premiers pilotes de la Q2 étaient séparés seulement de 575 millièmes. Donc l'année dernière, l'écart était plus étroit. On peut quand même signaler que il y a des modifications qui ont été apportées au circuit, notamment pour permettre aux pilotes de prendre davantage les bordures, etc. Donc peut-être qu'effectivement certains pilotes ont pu prendre plus de risques cette saison, ce qui fait que les écarts se sont un peu creusés. Je pense notamment à Lewis Hamilton ou à Barrichello qui sont de nature assez attaquants, donc ils vont plutôt aller mordre sur les vibreurs, et donc qui creusent un peu plus l'écart, qui prennent plus de risques. Donc voilà pour les stats. Avant de passer à la course, je vous propose un petit jeu.
Ah.
Oh.
Un petit jeu, je vais vous passer une musique.
Oui.
Et j'ai crié.
Je vais vous la laisser quelques secondes et vous devez me dire ce qu'est cette musique.
Je suis super doué à ça.
Ah, on va bien voir.
Si c'est une vraie chanson, moi.
Attention, c'est parti. Alors.
Si c'est une émission de télé.
Non, c'est pas une émission
c'est
de télé.
C'est une série télé.
C'est pas une série de télé.
C'est un film.
C'est pas un film.
C'est un générique de quelque chose.
Je dirais pas que c'est un générique, je dirais que c'est une musique, comme ça.
Mais la F1, c'est toi qui l'as rajouté derrière ?
Non, c'est dans la musique. C'est une musique qui a été composée pour quelqu'un et qui est diffusée à certaines occasions. Vous voulez que je vous la repasse ?
Non, bah vas-y.
Ouais, ouais.
Alors
déjà, c'est les années 80.
C'est les années 80. Ce n'est pas une musique de film érotique, je tiens à le dire.
J'aurais tendance à dire peut-être une musique de jeu vidéo.
C'est pas une musique de jeu vidéo.
Ah non, c'était moins...
C'est un rapport avec la Formule 1.
Ouais.
Je pense que...
C'est pas un truc télé, vraiment. Parce que ça...
Alors, c'est un truc télé, mais c'est pas un générique d'émission, c'est pas...
C'est une séquence.
C'est une séquence qu'on utilise à la télé. J'invite nos auditeurs à réfléchir en même temps que vous. Hein. Si vous avez les réponses, appelez-nous au service après-vente de la F1.
Ah non, j'ai Tom Automoto.
Non, c'est pas Automoto.
Ouais. Une émission
de sport. Est-ce que vous voulez la réponse?
Oui. Donne-nous des indices déjà.
Ouais.
Vous voulez des indices? C'est une musique qui a quelque chose de magique quand on l'écoute. C'est une musique qu'on a déjà entendue deux fois dans une partie du monde quand le Grand Prix de Valence passait.
Alors c'est au Brésil.
C'est au Brésil.
Puisqu'il y a deux Brésiliens qui ont gagné. Je pense qu'il passe ça dès qu'il y a un Brésilien qui gagne.
Et voilà, c'est l'hymne de la victoire écrit pour Ayrton Senna. et qui passe. Et je vais vous passer la version qu'on a eue ce week-end. Donc attention les oreilles.
Hamilton vem rápido, não me interessa, o que interessa é a bandeira quadriculada. Aí vem ele, aí vem Rubens Barrichello, traz, na ponta dos dedos, puxa pra esquerda, com cuidado Rubinho, com cuidado, equilibra, pra vencer. Aí vem ele, Rubens, 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 Rubens Barrichello do Brasil! Brasil! Rubens Barrichello do Brasil na ponta dos dedos! A centésima vitória brasileira na Fórmula 1! Brasil!
Alors, ça vous rappelle quelque chose maintenant?
tu sais quoi? C'est autre chose que la FIT, hein?
Ah, carrément!
Alors, justement, j'ai cherché aujourd'hui sur différents sites de vidéos, j'ai cherché une version de la victoire. Réalisé par TF1. Donc, si jamais quelqu'un a enregistré, t'as la fin du Grand Prix de.
Ah non, pas ce Grand Prix. Mais alors, je peux avoir par exemple une fin de la victoire de Jean Alési, par exemple.
Ah bah Jean Alési, ça serait.
Il fait un français, forcément, pour nous.
Ça serait très bien. Donc déjà pour avoir un français, mais ne serait-ce que pour avoir la comparaison par rapport, ne serait-ce qu'à Barrichello et voir comment les deux présentent. Si quelqu'un a les images de TF1, bah qu'il n'hésite pas à nous contacter par le biais du formulaire de contact sur le site. Et la prochaine émission, dans une prochaine émission, on fera le comparatif. Parce que c'est vrai que quand on écoute ça, c'est
Il n'y a pas photo, quoi.
Il n'y a pas photo, quoi. Ouais. Le mec, il est 5 virages avant la fin. Le mec, il est en train de vivre le truc. Et t'as un mec, il est payé pour avoir le doigt sur le bouton pour que quand il passe sur la ligne, t'as le petit jingle qui démarre.
Ah, c'est excellent.
Et voilà, donc voilà, ça c'était pour vous introduire la victoire de Rubens Barrichello.
Rubinho,
la 10e victoire de Rubens en carrière, la première victoire de Rubens qui n'est pas une victoire Ferrari.
Et c'est la première, centième. J'ai la première ayant eu lieu en Allemagne, en quelle année?
En 2002.
2002, sous la pluie.
Sous la pluie, ah c'était magique.
C'était magique cette victoire.
Ah ouais. On aurait dit Senna.
C'était beau. C'était
voilà.
Beau. Très beau.
Et donc là justement.
Sans doute la plus belle victoire d'ailleurs.
Ouais.
À part l'Autriche 2002.
Ouais. Donc c'était sa première depuis 5 ans.
Première depuis 5 ans le Grand Prix de Chine, je crois, 2004. Sur 2005, il a été très mauvais chez Ferrari. Oui. Mais on lui pardonnera. c'est aussi la 100e victoire
de Mercedes.
D'un Brésilien.
Ah non. Bon.
Les Brésiliens ont gagné 100 Grands Prix. Ce sont les trois. C'est la troisième nation en termes de victoires de Grand Prix avec 100 points.
Après, Schumi et l'Angleterre.
Voilà, l'Angleterre.
L'Allemagne et l'Angleterre.
Et l'Allemagne. Mais c'est vrai que quasiment Schumi a autant de victoires tout le Brésil à lui tout seul, puisque Schumi en a 91 et le Brésil en a 100. Est-ce que vous pouvez me citer
C'est l'Angleterre avant l'Allemagne ou pas?
C'est l'Angleterre avant l'Allemagne. Je crois que l'Angleterre, ils en ont. Faudrait que je retrouve les statistiques. Stat F1. Alors vous y allez pas sur Stat F1.
Les vainqueurs de Grand Prix brésilien?
Ouais, mais vous y allez pas.
Déjà Massa.
Ah, déjà Massa, oui.
Senna.
Ouais.
Piquet Père.
Qu'est-ce que tu cherches?
Les vainqueurs brésiliens de.
Les vainqueurs brésiliens.
Bah, Fittipaldi.
Fittipaldi, ouais.
Pech.
Shinji, tu as dit. Pache, ouais.
Pache, oui. Fittipaldi, on l'a dit.
Ouais. Piquet Senior.
Piquet Senior, ouais.
Moreno, il a jamais gagné. Qui sait comment D'Amata il a jamais gagné. Non. Je réfléchis. Non, c'est intéressant. Laisse nous chercher.
Moi ouais, je vous laisse chercher.
Juste, il nous en manque beaucoup.
On vous avait dit Barrichello, Massa, Fittipaldi, Carlos Pache. Vous avez dit quoi d'autre?
Piquet Senior.
Ouais. Ben, il vous en manque un.
on va le trouver. On va le trouver.
Je demande aux auditeurs de ne pas se moquer.
Attends, on va trouver.
Ah oui, cherchez, je suis pas certain de trouver celui-là.
Pourquoi? Parce qu'on le connaît pas?
Au contraire.
Bah on c'est a Senna.
C'est le seul que vous avez oublié, c'est Senna.
Mais non, je l'ai dit au début, Senna.
Dit, oh, mais...
Ouais, mais tu l'as dit, ça va être coupé au montage, ça.
C'est petit.
Non, désolé, j'avais pas entendu le Sénat, donc je m'excuse. Je reconnais, je retire, chers auditeurs, vous avez vu, je suis gentil. Je retire tout ce que j'ai dit, hein. Vous êtes très brillants, messieurs, vous avez tout trouvé, y compris Carlos Pache, qui a gagné son Grand Prix du Brésil en 1975.
Ah ouais.
Le circuit portant désormais son nom, d'ailleurs.
Son nom, ouais.
Et c'est d'ailleurs, on avait fait un quiz, c'est d'ailleurs l'un des hommes à n'avoir gagné qu'un Grand Prix, et que ce Grand Prix, c'était chez lui. Donc, victoire de Rubens Barrichello, c'est les statistiques de sa victoire. Tu disais tout à l'heure, Enzo, c'est la...
10e victoire.
La 10e victoire de Rubens Barrichello en carrière. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? C'est la 7e victoire de Brown Grand Prix cette saison, si je ne me trompe pas. Voilà, puis c'est tout, je crois, sur Rubens Barrichello. Votre sentiment sur Rubens, sa victoire?
Mérité.
Mérité, oui.
Amplement mérité,
oui. Comme on l'a dit, il avait déjà une grosse cote hein, au sortir de la qualif, avec son point en essence. Alors, la question, c'est...
Et j'ai une question. Est-ce que ça pourrait pas être lui, l'élu?
Ben, là...
C'est la crainte de, c'est ce qu'a déclaré Button. Il a dit que maintenant, fallait qu'il se méfie de son équipier, qu'il allait devoir être agressif désormais parce que Barrichello est revenu à 18 ouais. points, je crois, au championnat.
Ouais, on verra. Oui. Et puis Button, il est pas dans une spirale ascendante.
Button, il est décevant ces derniers grands prix. Hein. Ouais. Alors, soit il assure, mais là, il assure un peu trop quand même. Hein.
Alors, ouais, mais il dit, je vais rebooster le truc, quoi. Ouais. Je suis sûr que Bernie Ecclestone a contacté, lui a dit, sinon, on fait revenir Schumacher.
Ouais.
Il a dit, d'accord, j'arrête de faire des résultats, mais vous laissez Schumacher chez lui. Parce qu'il faut quand même rappeler que la dernière fois que Button a été très performant, je crois que c'est en 2004.
Oui.
Hein, ouais. Et Baronda a fini deuxième du championnat, Button a très bien marché sur la deuxième partie de saison.
On le donnait même favori pour début 2005. Hein.
Et il avait Michael Schumacher devant lui, le pauvre. Non, mais je crois qu'en 2005, il se serait bien démerdé, il aurait pu être champion.
Oui.
La faute à Barre.
Non, il fait une bonne occasion au championnat et il permet à Brown de faire une bonne occasion.
Ouais, aussi parce qu'il repart avec, il repart avec 12 points de plus, je crois, de.
Ouais, 12 à 0.
Ouais, 12 à 0.
Ouais, c'est ça.
Si, c'est 12 à 0.
Alors, pensez-vous que, s'il n'y avait pas eu le problème au stand d'Hamilton, il aurait quand même gagné.
Oui.
Oui.
Oui. Oui. Malgré la difficulté de dépasser à Valence, le.
Mais il n'aurait pas eu à dépasser. Il aurait dépassé dans les stands.
Voilà, il aurait dépassé dans les stands. Non. Il a été rentré plus tôt par Brown, qui lui a dit de toute façon, t'as 23 secondes d'avance. Un arrêt au stand, c'est 20 secondes, donc t'as largement le temps de rentrer, de partir devant, et c'est ce qui est arrivé. Voilà, donc même sans l'arrêt au pneu, il avait encore 4 ou 5 tours à faire, s'il s'était pas arrêté, il aurait fait encore 4 ou 5 tours en plus. Donc ça lui aurait permis d'aligner des chronos, lui à voiture vide alors que Hamilton avait une voiture lourde. Donc oui, il n'y avait pas de problème, il passait devant. Et d'ailleurs, je crois même que Hamilton l'a reconnu en disant, de toute façon, la victoire aujourd'hui était très difficile à obtenir.
Okay.
Moi, c'est cette victoire de Barrichello, on m'a fait remarquer, je crois que c'est sur le blog, où on a écouté les archives de je sais plus quelle émission l'année dernière, je crois que c'est Singapour, où je disais que c'est bon, Barrichello, fallait qu'il arrête. On a tous dit ça, et c'est ce que j'ai dit d'ailleurs sur le blog, hein, que le premier qui l'a pas pensé me jette la pierre.
Tu vas voir que Badoer, il va gagner à ce pas.
Non, il faut qu'il attende 5 ans avant ça. Moi, j'avoue, Barrichello, j'ai une dent contre lui depuis quelques années. Je suis très reconnaissant pour ce qu'il a fait chez Ferrari. Et je sais qu'il a souffert de cette époque-là. Mais j'ai pas aimé son comportement après Ferrari.
Il crache un peu dans la soupe.
Maintenant. Voilà, cracher dans la soupe. Et ça, j'ai pas apprécié. Mais malgré tout, moi, ce que j'ai ressenti en regardant sa victoire, malgré tout, j'ai ressenti la victoire de voilà. C'est un mec qui a été chez Ferrari et qui aujourd'hui mérite sa victoire. Et... Moi, je vais pas vous le dire tout de suite, je vais vous dire à la fin, tiens.
Puis c'était très beau, hein, vous avez vu, quand il a arrangé la voiture, quasiment toutes les équipes qui l'applaudissent.
Voilà.
Ouais.
Puis même les gestes qu'il a eus pour Felipe, c'était quand même super sympa.
Tout à fait.
Mais voilà, et grand bonhomme. Puis quand on l'entendait à la radio en pleurant comme s'il avait gagné le titre,
Je suis pas d'accord. Barrichello, il pleure à chacune de ses victoires.
Oui, ah ben je sais pas.
Si.
Ah ouais. Bah, il est très sensible comme garçon.
Non mais c'est vrai.
Qu'est-ce qu'il est moqueur.
Mais voilà, puis c'est quand même une belle histoire parce que c'est quand même, on va pas dire que c'est lui le responsable, mais indirectement, il devait ça... peut-être se juger responsable de sa voiture, etc.
Ouais, ça a pas dû être facile pour lui.
De ce qui est arrivé à Felipe, il avait dit qu'il y avait pensé chaque tour Hungaroring et il a gagné pour Felipe. Je pense que ça l'a galvanisé et ça montre aussi ce qu'apportent les Brésiliens à la Formule 1, quoi. Je pense qu'aujourd'hui il n'y aura plus de Formule 1. Bah ouais, on voit les pilotes anglais entre eux, on voit l'énorme armada allemande. Mmh. On n'a pas l'impression que les mecs allemands sont super frères, etc. Mmh. Voilà, quand il arrive une merde à un Brésilien, bah les mecs ils sont là. Massa, ah,
c'est le caractère latin. Hein. Je veux dire, les Italiens c'est un peu pareil entre eux. Regarde Trulli, ils ont surtout pas acheté la pierre sur Badoer. Bon, ils se proposent pour le remplacer, mais.
D'ailleurs, Trulli qui était très classe puisqu'il l'a défendu publiquement en disant que voilà, c'était pas une situation facile pour Badoer.
Qu'il était mauvais. Mais ah mais il y a
voilà.
Aucun pilote n'a voulu. J'ai envie, ouais, tirer sur l'ambulance quoi. C'est vrai que.
Voilà. Ça risque pas d'être le même topo en Belgique.
Oui.
Ouais. Mais voilà. Deuxième de la course, Lewis Hamilton.
Bah, il était content sur le podium.
Ouais. Voilà, c'est très bien. Hein.
Je vous avouerai
que la petite victoire de Rubens Barrichello, je me suis quasiment mis à genoux par terre en priant s'il te plaît Seigneur, fais que Rubens gagne. Parce que je me voyais quand même mal faire un deuxième SAV avec une victoire de Lewis.
Non, mais c'est normal, il revient. Enfin, on l'a déjà dit la dernière fois, mais il revient tellement de loin. Cette voiture, surtout.
Ouais.
Pas tant lui, mais surtout la voiture.
Ouais, s'il y a quand même eu un faux en début de saison.
Ouais.
Mais c'est quand même, enfin, les progrès de la McLaren sont quand même. Ils ont apparemment.
Bah, en Australie, il a fini 18e.
Ouais, voilà.
Voilà.
Mais apparemment, ils ont changé le châssis.
Oui, ils ont beaucoup travaillé.
Ils ont beaucoup travaillé. Et on voit bien deux politiques différentes. On sent bien chez McLaren qui continue à travailler pour cette saison en préparant déjà 2010. Mmh. Et on sent plutôt chez Ferrari qu'ils ont abandonné le programme 2009.
Ouais.
Puisque la voiture stagne et elle est bonne, hein.
Non, puis de toute façon, vu les circonstances.
Vu les circonstances, je pense qu'ils ont arrêté la saison 2009 et qu'ils sont déjà eux en train de travailler sur 2010. Ils vont essayer des pièces, et que de toute façon, Badoer l'a dit, hein, lui, sa course ce week-end, c'était une grande séance d'essai. D'abord parce qu'il pouvait pas reprendre le rythme, puis en même temps, parce que ça fait rentrer des données pour Ferrari.
Oui, du moins, je voudrais nuancer quand même un tout petit peu. Il n'y a pas de grande refonte aérodynamique prévue pour l'année prochaine, si ce n'est qu'il y aura plus de ravitaillement, qui fait qu'on va avoir une taille de réservoir un peu plus gros, donc ça va un peu peut-être modifier la carrosserie des voitures. Mais du coup, je pense que tout développement qui est fait cette année est réapplicable, on va dire, sur la voiture de l'an prochain. Donc je pense pas qu'ils aient complètement abandonné non plus les développements, parce que ce qui est fait cette année leur sert.
Donc ensuite, Kimi Räikkönen, à nouveau sur le podium lui aussi, une place derrière par rapport à la Hongrie, troisième.
Ouais, il fait un bon départ.
Voilà, excellent départ, stratégie avec pas mal de pleins, ce qui lui permet d'être devant. Il n'a pas été vraiment inquiété, il n'a pas eu trop à attaquer, puisqu'il était assez loin du rythme de Barrichello et d'Hamilton. Mais après, voilà, il avait qu'une course assez tranquille, pas flamboyante. Mais il a été très bon au départ. Moi, j'étais un peu inquiet pour le départ, parce que... Pour la première fois de la saison, on avait deux pilotes Kers aux premières places. On avait même un pilote Kers en première ligne.
Donc, et un à la dernière.
Le mec, il peut se permettre de déclencher le Kers, il prend le large. Et moi, ça m'inquiétait parce que je me disais, il va prendre le large. Et puis après, ça va bloquer tout le monde. À Valence, tu peux pas dépasser. Donc, ce qui était inquiétant, c'était pour Kimi, qui a déjà eu des contacts difficiles sur ses départs ces derniers temps. Et en plus, là, le départ de Valence étant quand même dans une grande courbe, après sur un virage, je me disais, le Kers, il va peut-être pas trop s'en servir. Et en fait, il a super bien négocié, par sixième, il arrive, je crois, quatrième au premier virage. Après, il a juste à faire sauter le bouchon Kovalainen, parce qu'il était pas trop dur.
Oui, il est mauvais, Kova.
Donc, bah tiens, justement, Kovalainen, quatrième. C'est ça, je crois, quatrième.
Ah, hein. Pardon, je confondais avec Kubica, moi.
Mais non, Stéphane, ne l'écoute pas. Kovalainen, quatrième.
Bah, il a pas réussi à tenir sa place.
Bah, ouais. Moi, j'ai écrit...
C'est quatrième, mais voilà.
J'ai écrit sur ma feuille, j'ai écrit brillant en qualif, état en course.
Voilà. Oui, tu l'as mis aussi dans un commentaire sur Enzo F1.
Oui, voilà. Point com. J'allais dire pour FR. Donc, voilà, Kovalainen, c'est toujours le même problème avec lui. Ça revient à m'énerver, quoi. C'est, voilà.
Je vois mal, hein, qu'il va garder cette place. Hein.
Je me demande si ça serait pas une maladie finlandaise.
Non, on peut pas comparer les cas parce que quand même chez McLaren, c'est moi si m'inquiète avec Nico, tout le monde dit ouais Nico peut faire que mieux. Oui, il peut faire que mieux, mais attention, ça va aussi dépendre du traitement que va recevoir Nico. Est-ce que Nico Rosberg va être traité d'égal à égal chez McLaren ou est-ce qu'il va être traité comme Kovalainen tout de suite, c'est-à-dire à savoir c'est toujours lui qui s'embarque la citerne derrière.
Tu crois qu'il est mal traité là?
Donc Kovalainen, ah ouais.
Attends, il aurait pas fait son temps quand même. Il aurait pas fait ce temps-là.
Non, mais c'est pas sur cette course-là spécifiquement qu'il est mal traité. Mais on sait très bien que ça fait un an et demi qu'il est chez McLaren, ça fait un an et demi qu'il se tape les stratégies de merde, les choix, il passe toujours derrière Lewis Hamilton. L'équipe n'a Dieu que pour Lewis Hamilton. Le mec, il se dit au départ, déjà à la fin de la qualif, il se dit je fais une boulette, je rate la peau. Je suis derrière Lewis. Donc déjà le mec dans sa tête, il commence déjà à s'éteindre. Il part en course, il voit Lewis qui s'envole, il se fait griller par Barrichello, il se dit bon bah ça y est, c'est bon. Bon, ma course elle est morte quoi.
Non mais il est faible.
Mais il est faible mentalement. Mais moi je pense que c'est un mec dans une équipe comme Williams, on parle aussi de lui chez Toyota, ou pourquoi pas chez Brown Grand Prix, je pense que c'est un mec qui traitait avec entre guillemets un certain égard. Je pense que c'est un mec qui se défoncera le cul, mais bien parce que moi personnellement j'aime beaucoup le pilote. Et ça me rend triste de le voir comme ça, quoi. C'est voilà, ça me. Mais ce que tu et ça dis, m'énerve même.
Ce que tu dis, c'est vrai pour tous les pilotes. T'as qu'à voir comment était traité Piquet chez Renault, ça aide pas. Briatore, ouais, bah, il l'a pas compris, mais ça aide pas un pilote de le descendre en permanence. Hein.
Mais là, chez McLaren, on nous a quand même vendu en disant non, mais là, on a un super duo, les deux vont être traités à valeur égale. Sauf qu'on l'a très vite su, fallait pas se foutre de la gueule du monde. Oui, il a pendant les 6 ou 7 premiers Grands Prix de 2008, il a été brillant, etc. Mais rapidement, ils ont verrouillé les stratégies, ils ont dit hop, Lewis, il a les meilleures stratégies, puis toi, t'as des stratégies de merde. Voilà, il a eu tous les pépins, il a eu tout mauvais matos, c'est tout.
Ah, ça, les pépins, on choisit pas.
Voilà, Kovalainen, c'est pour ça que je suis en colère contre Kovalainen, parce qu'au contraire, là où je pense que Nico Rosberg fera la différence, c'est justement Nico Rosberg, il se laissera pas aller. Il ira contre, il essaiera de prouver et d'aller chercher les meilleures places, etc. Kovalainen, c'est pas cette mentalité-là. Donc voilà. On parle de Rosberg, juste pour faire plaisir à... Pour une fois qu'on peut en parler, là pour une fois...
Comment ça, pour une fois qu'on peut en parler?
Non, pour une fois que j'ai écrit Rosberg sur ma feuille et j'ai mis entre parenthèses Enzo va être content et que dans ma tête je me disais pour une fois je le mets pas seulement pour faire plaisir à Enzo.
Mais c'est purement mérité comme les 7 les 4 dernières grands prix quoi.
Ça, oh non là. Ça, 7e grand prix dans les points.
Et oui, ouais, mais... attends, faut arrêter quoi.
Là quand même il a été
et jamais sur le podium, il manque
il a pas de podium.
Il a même dit s'il y avait pas le retour de McLaren, on serait sur le podium.
Et bien sûr, il a qu'une Williams.
Voilà.
Oh, le discours, alors ça m'énerve le discours. Il a qu'une Williams, comme n'empêche la
non,
Williams.
Non, je dis ça parce qu'on a un auditeur qui est fan de Williams.
Oh non, on a un auditeur qui fait de la pub pour nous. Sérieusement, le fâche pas quoi.
Non, mais je plaisante. J'aime bien Williams. Non, c'est pas vrai en fait. Mais j'ai rien contre Williams, on va dire. Mais je veux dire, moteur Toyota, c'est bon.
Il est et pas, d'ailleurs,
pas exceptionnel. Peut-être Renault bientôt d'ailleurs.
Ouais, peut-être.
On en,
oui.
On en parle. Et je veux dire, c'est pas la Williams de la grande école, de la grande époque, pardon. Bon, certes, ils veulent sortir leur propre Kers, pardon.
Ouais.
Ils veulent surtout pas qu'on le supprime l'an prochain.
Bah, tu m'étonnes.
Je me méfie quand même de Williams. Ils sont capables de nous faire un coup de la suspension active, la domination qu'ils ont eu avec la suspension active. C'est pas impossible qu'ils nous refassent le coup là avec le Kers. S'ils ont trouvé un système qui marche bien et
léger.
Et léger. Aux petits oignons.
C'est pour ça qu'à la limite, est-ce que Nico Rosberg ferait pas mieux de rester chez Williams?
Ah.
Surtout que Williams pourrait mettre la main sur un pilote du genre Robert Kubica. Il pourrait très bien. Williams, tout ce qu'a demandé Rosberg à Williams, c'est de lui fournir en 2010 une équipe pour gagner. Et Williams lui a dit oui, on essaiera d'avoir le meilleur coéquipier possible. Pourquoi pas mettre Kubica et Rosberg chez Williams?
C'est pas ce qu'il a demandé. il a pas demandé un coéquipier qui pouvait battre.
Non mais il voulait que
sinon Williams... il allait chez McLaren.
Non mais c'est pas un coéquipier, il veut pas un coéquipier qui bat, mais il veut un meilleur coéquipier, il veut une équipe plus ambitieuse et pas un coéquipier qui choisit juste pour aller avec le moteur qu'il a derrière.
T'imagines un peu
Kovalainen, je pense que Kovalainen le pourrait le faire rester.
Rosberg plus Kubica ou Kovalainen sur Williams Renault. Serait joli à voir ça.
Ouais. Je vous rappelle que vous pouvez pronostiquer donc le plateau 2010 sur le site du SAV. Méfiez-vous, Shinji a pris de l'avance.
Ah oui, en plus c'est vrai, il nous a envoyé ses pronostics.
Ah, ouais. Ah bon? Ah, je sais.
Bah oui, mais oui, moi je l'ai fait quand il y a eu le premier article.
Mais bon, bien sûr, vous avez jusqu'au 31 août, hein, donc. Vous pouvez les envoyer.
De toute manière, CNG est hors concours.
Voilà, c'est...
Ouais, non, bah, pas. Non, non.
Bah, même toi, tu es dans le concours, Enzo.
Moi, c'est beau.
Ensuite, Fernando Alonso, 6e chez lui.
Décevant.
Ouais. Oui.
On s'attendait à mieux. Briatore a même dit qu'il pouvait avoir la pole. Ah bon? Je sais pas où il
l'a mais vu, il dit ça. Beaucoup de choses, Briatore, cette année.
Donc voilà, il a même failli vers la fin se faire rattraper. La course aurait duré un peu plus longtemps. Je pense que Button aurait pu le rattraper parce que Button a quand même réalisé l'un des meilleurs temps. Et en plus, Alonso chez lui vit quand même un petit camouflé puisque dans les meilleurs temps, il se fait taper par
son coéquipier.
Hein, ce qui lui est pas arrivé en course depuis
pas mal de temps. Hein.
Depuis 2007. Non voilà, Alonso, coussi coussa chez lui. Peut-être déjà la tête ailleurs.
Mais où ça donc?
Je sais pas. Hein, McLaren.
Bah, on en parle.
Ensuite, Jenson Button, 7e, qui sauve les meubles.
Voilà.
Alors là, pour le coup, il nous fait des Raikkonen. Ça veut dire que il est transparent pendant la moitié de la course. Et puis c'est seulement dans la deuxième moitié qu'il se dit « Ah ouais, merde, putain, je suis en train de faire un Grand Prix, là. C'est ce que j'accélère. » Alors l'année dernière, on avait Kimi qui nous faisait les meilleurs temps aux alentours du 40e, 50e tour. Et ben là, on a Button qui nous fait les meilleurs temps vers la fin, qui nous remonte 2-3 pilotes.
Ouais, est-ce que c'est... Je pense que c'est avant, il était bouchonné, surtout. Hein. C'est pour ça que...
Oui.
Il pouvait pas faire mieux. Hein.
Ah, il a été coincé longtemps à la bagarre derrière Weber.
Voilà. Il a attendu que le bouchon saute.
Voilà.
Ah bah, il a eu du mal. 8e Robert Kubica, premier point depuis un bail.
Depuis la Turquie.
Voire même deux bails. Hein.
Ouais.
C'est que depuis la Turquie.
Bah, ouais. C'est il y a 5.
Mais en même temps, c'est ses seuls points, c'est ses seuls points de l'année. Hein.
Ah voilà, donc
il a 3 points sur Fena.
Donc voilà, c'est pas mal.
Ah oui, par rapport
comme quoi c'est bizarre. Là, il faut qu'il cherche un volant tout d'un coup.
Oui,
il se sort les doigts. Tu l'avais Stéphane, mais faut dire ce qu'il faut hein.
Ouais, moi je le trouve pas exceptionnel comme pilote hein. Excuse-nous Stéphane hein, mais
oui, mais vas-y, défends ton argument, Stéphane. Nous t'écoutons.
Tu vois, t'as rien à dire. Tu trouves rien à redire. C'est que finalement...
C'est un argument béton, voilà, c'est tout. Non, mais de toute façon, on en a parlé déjà un peu avant. Voilà, bon, coupé de ça. Moi, j'aime bien le pilote. Voilà, il est rapide, mais il est rapide que quand il veut, quoi. Très... voilà, il y a un problème sur son caractère.
Il y a du trou, lui, dans cet homme-là. Ou du physique, là.
Non, mais eux, le problème, c'est qu'ils sont, ils sont soit rapides, soit lents. Lui, c'est, il est rapide, mais il s'offre le luxe d'être lent. Et donc, nous retrouvons à la 9e place le premier pilote Red Bull Racing. Marc Weber. Ouais.
Voilà. Pas terrible, hein, les Red Bull.
Bon, lui, elle est régulière. Hein,
ouais.
Il est parti 9e, je crois. Il finit 9e. Bon, no comment. Donc, on en a parlé en qualification. On va aussi en reparler encore parce qu'il faut un beau tir groupé aux 10e et 12e places. Les pilotes Force India, dans l'ordre Sutil et Physique, est là.
Belle course.
Belle course. Bon, en même temps, ils passent un peu à côté de leur objectif parce qu'ils avaient pour objectif, ne serait-ce que Sutil, qui était mieux placé, il avait pour objectif d'essayer de taper les points. Bon, c'est encore un peu juste, mais bon, c'est 10e, c'est à 2 places des points, ça progresse bien.
C'est bizarre que Sutil n'ait pas été cité dans les remplaçants potentiels de Badoer.
Ouais, c'est vrai.
Jeune pilote, talentueux.
Mmh. Je pense que Force India y est attaché, contrairement à Fisichella.
Ouais, il y a peut-être ça. Hein.
Peut-être, maybe. Romain Grosjean, qui finit 15e.
Bah bien, bon, ça a été un peu compliqué, on va dire, les 10 premiers tours. Enfin, mais c'était son premier départ.
Voilà.
Il y a eu ce problème avec d'aileron.
Voilà.
Ce qui cause un arrêt.
Voilà.
Et sinon, il fait quand même le
un tête à queue. Il fait un tête à queue aussi.
Ouais, et mais ça, attention, là, ils ont été plats en fer ce week-end, hein, lors des essais.
Oui, non, mais attends, c'est pas une
critique. Mais il fait le 9e meilleur tour.
Voilà. Devant Alonso. Devant Alonso. Et c'est ce qui a été plaisant, c'est que même si sa course a été foutue en l'air par Timo Glock, j'y reviendrai plus tard, au premier tour, il s'est quand même déchiré après pour faire ses preuves, pour éclater des chronos, et même à la fin, c'est quand même terrible, même à la fin, c'est le muret des stands qui était obligé de lui dire, écoute Romain, ralentis, parce que on n'est pas sûr que la voiture tienne. Donc, ouais, grosse impression.
C'est encourageant. C'est vrai que, bon, au niveau du résultat, c'est un peu... C'est dommage, quoi. Parce que c'est vrai que cet arrêt...
J'ai beaucoup aimé le reportage qu'a fait TF1 avant la course, où il parlait des pilotes français qui avaient marqué leur premier point lors du premier Grand Prix. Donc, il prenait des belles références. Alors, le premier, je sais plus, dans les années 50, je sais même plus qui c'est. Ensuite, il parlait Prost, allez-y, et Bourdet.
C'est en pente descendante.
Je sais pas si on lui souhaite, en fait, de rentrer dans les points dans
sa première. On a Prost, qui est quand même un grand champion. On a allez-y, bouf.
Qui est un grand champion également.
J'aime bien le provoquer, Enzo, sur ça. Et on a Bourdet.
Et qui est un pilote.
Donc, pour déroger un peu à la règle, même s'il est classé dernier, on va parler de Sébastien Vettel avant de parler du prochain pilote. Abandon de Sébastien Vettel. Une question simple, à 6 grands prix de la F1, a-t-il encore ses chances?
Oui.
Oui, mais bon. Depuis le début,
Enzo. Ah oui, non, mais moi je l'ai toujours dit, mais...
Donc il lui reste 2 moteurs.
Alors, quand les moteurs ils sont cassés, ils sont pas vraiment cassés. Des fois, ils peuvent les réparer, il paraît.
Oui, mais ils peuvent réparer que quelques pièces. Mais là, vu les casse moteurs qu'il a eu,
c'est... Le problème, c'est que les prochains Grands Prix, c'est vraiment des Grands Prix exigeants pour les moteurs.
Voilà. En fait, ils peuvent juste les nettoyer. Et puis, ils peuvent très bien reprendre des vieux moteurs qui ont servi sur d'autres Grands Prix, mais on voit vraiment pas trop à quoi ça va leur servir.
Ouais.
Parce que les Grands Prix qui arrivent, c'est quand même Spa-Francorchamps. Je pense notamment à la montée de l'eau rouge.
Monza,
qui est quand même la référence en matière de moteur. Derrière, on a Singapour, qui est un autre circuit en ville, un circuit TAPQ, donc pour les moteurs, c'est pas forcément très pratique. Il y avait quand même des beaux morceaux d'accélération. Et puis derrière, on a Suzuka, on a le Brésil et on a Abu Dhabi. Abu Dhabi, on sait pas encore trop, mais bon, Suzuka et le Brésil, c'est des circuits de moteur aussi. Donc.
Je pense qu'après Monza, on va avoir des grosses surprises à ce point de vue.
Donc voilà, Vettel. Donc vous y croyez encore?
Oui, c'est.
On l'a dit, hein, les prochains Grands Prix a priori sont peut-être plus favorables pour la Red Bull.
Ah bah clairement, de toute manière. Non, moi je pense que c'est pas perdu. Il a quoi, une vingtaine de points de retard, c'est ça?
Et comme Button justement stagne.
Ouais, tout à fait. Bah, moi, je pense que pour Button le. le danger, il vient de son coéquipier maintenant.
Ouais. Mais bon, on se rappelle un exemple assez récent, hein, d'un pilote qui se trouve à 20 points à 3 courses de la fin et qui...
Kimi.
Il y avait quand même une différence, c'est qu'a priori, il n'y avait que deux équipes pour gagner.
Bah là aussi. Alors...
McLaren.
Ah, il y a McLaren, hein, quand même.
Ah, je parlais du titre, je croyais le titre.
Oui, pour gagner des victoires.
Ouais, mais donc, voilà, justement, c'est-à-dire que si Kimi a réussi à récupérer 20 points en 3 courses en 2007, bon, pour Vettel, il reste 6 courses, c'est faisable, surtout qu'effectivement, ils sont justement plusieurs à se battre en course, donc...
Il faut qu'il soit devant Button, il faut qu'il soit devant aussi les autres, pour que lui gagne un max de points et que Button en gagne peu.
Ouais.
Bon, ça nous annonce quand même une fin de championnat... assez excitante. Ok, on passe au gros dossier piquant de cette émission, le Cabadoer. On en a déjà pas mal parlé, il finit 17ème.
Il gagne 3 places.
À un tour, voilà, il gagne 3 places au profit des abandons respectifs de Vettel, Buemi et Nakajima. Nakajima qui est quand même classé, ce qui fait qu'il n'est pas vraiment dernier.
Il ne finit que à un tour.
Que à un tour, ouais.
Ouais.
Donc Badoer, on a depuis le début de l'émission, on en parle. Voilà, votre opinion sur sa performance et
belle course.
Je me demande si c'est ironique ou s'il le pense vraiment.
À ton avis?
Je pense que c'est ironique.
Soyons honnêtes. À quoi on s'attendait? Ouais, pas aussi pire. Je suis d'accord.
Pas à ce point-là quand même.
Voilà, on s'attendait pas à quelque chose de bien, mais on s'attendait quand même à quelque chose de mieux. Ouais. Même si je pense qu'on a été atteint du même syndrome que Michael Schumacher. Je pense qu'on s'attendait à tellement avec Michael Schumacher qu'avec Badoer, on s'est nécessairement attendu à moins. On s'est dit voilà, il va. Mais on s'attendait à un top 10, quoi. On s'attendait à ce qu'il s'en sorte bien avec la voiture. Et on a oublié que Badoer, c'est un mec qui a pu piloter une Ferrari depuis quasiment 2 ans.
Ouais.
Que c'est un mec qui, quand même, depuis quelques années, même s'il a le record d'essais parcourus. Puisqu'il a parcouru 8 fois plus de distance entre 2000 et 2004 pour Ferrari que dans toute sa carrière en Formule 1 en Grand Prix. Il a fait 4 saisons en Formule 1. Donc il a parcouru 8 fois plus de kilomètres chez Ferrari en pilote essayeur qu'en Formule 1 par ses diverses écuries.
10 ans sans compète.
10 ans sans compète. Et on oublie de dire, c'est que, voilà, Badoer, ces dernières années, il était cantonné au shakedown, des monoplaces. Ouais. Cette année, il a même pas fait le shakedown de la F60, parce que c'est Massa qui l'a fait. Et que, son boulot chez Ferrari, c'est avant tout d'essayer les modèles de la marque. C'est un pilote de tourisme qui se met dans la Formule 1. Et moi, ce qui m'a un peu énervé, et sur quoi je voudrais défendre Badoer, c'est que, il y a quelqu'un sur le site d'Enzo, www.enzof1.com, il y a quelqu'un sur ton site, Enzo, qui a dit, maintenant quand on voit la performance de Badoer, on relativise un peu mieux les performances de Piquet, Grosjean et compagnie. Faut quand même pas oublier que des mecs comme Piquet, Grosjean et compagnie, eux, ils sortent du GP2 qui est relativement relevé, ils sont habitués au peloton, ils sont habitués à des voitures qui sont pas non plus des petites voitures. Hein, c'est des petites voitures par rapport à la F1, mais ça reste des gros bolides. On a Albert Schwery qui vient du World Series by Renault, c'est pareil, il est habitué à la bagarre, ils sont habitués à se donner à fond, ils ont la forme, et puis ils sont jeunes. Et c'est sûr, on peut pas comparer à des mecs jeunes qui sont dans la compétition depuis plusieurs années. Lui, il est plus dans la compétition et il a fait un choix courageux en disant "Vaut mieux que je sois essayeur chez Ferrari où il a battu un sacré boulot et qu'aujourd'hui il a la reconnaissance qu'il mérite. Il a fait un choix. Il a plus fait de compétition. Ne prenons pas la performance de Badoer comme la performance type d'un pilote qui n'est pas prêt pour la Formule 1. Ce mec-là, il ne pouvait que se vautrer. Faut être honnête.
La vraie question, c'est est-ce que sa propre performance l'a déçu?
Je pense oui.
C'est intéressant, ça, ouais, quand
et
même.
Les membres de l'équipe.
Je pense, apparemment, toute l'équipe est derrière lui, et puis ils l'ont confirmé pour Spa, donc, voilà. Après, c'est vrai qu'il va y avoir quand même des enjeux pour eux, et est-ce qu'ils vont pouvoir se permettre de garder Badoer, alors qu'il y a quand même la troisième place à défendre par rapport à McLaren, ce qui semble quand même mal barré, et puis même, je dirais même la quatrième place, hein, parce que c'est pas gagné. Si Renault revient fort derrière ou si d'autres équipes reviennent fort derrière comme Williams,
il y a plus que Kimi pour la défendre.
Pour moi, il y a plus Kimi, donc il faudrait un deuxième bon pilote. Le truc avec Badoer, c'est que Badoer, quand on regarde son Grand Prix, il fait pas de grosses erreurs. Il a pas fait de sortie aux essais libres.
Non mais
oui, non, c'est sûr.
La sortie. C'est sûr. Attends, la sortie des stands.
Non mais c'est sûr. Il... Non mais la sortie des stands, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas une sortie. Il se gare pour pas gêner Grosjean. C'est quoi? Non mais c'est un mec.
Oui, c'est sûr. C'est un gars qui
c'est sûr. Ça nous déçoit parce que c'est voilà, le mec il est dans une voiture Ferrari, qu'on est dans une course de Formule 1, on s'attend pas à voir ce genre de pilote. Mais il faut quand même se rentrer dans l'esprit que même Ferrari a dit, on n'attend rien de Lucas, nous on vient juste le récompenser de son travail, et donc il y a pas de résultat attendre de Lucas Badoer qui soit 20e à la limite, c'est le résultat logique. Moi de mon point de vue, Lucas Badoer, il est pas à sa place, ça c'est certain, mais certes il est ridicule, mais il fait un bon week-end, il fait pas des
Franchement, si vous voulez le remercier pour son travail, il lui payait un billet à la foire du trône ou à Euro Disney, quoi. Il allait faire des manèges qui lui donnent autant de sensations, quoi, mais qui pourrissent pas la course de Ferrari, quoi. Je suis méchant, là. On voit quand même un grand changement chez Ferrari par rapport au, il y a 10 ans. Ben voilà, il y a 10 ans, Schumi se cassait une jambe. Et il y avait Todd, qu'est-ce qu'il a décidé? On prend, on fait pas de sentiments. Je sais que t'as regardé récemment les vidéos La Grande Époque Ferrari où tu voyais, il disait laisse passer Schumi, il le disait clairement à la radio. Bah oui, bah on faisait pas de sentiments et bah ça a payé quand même. C'est un business la F1 aussi. Bon, là, la saison est flinguée pour Ferrari, mais de toute manière, si tu regardes bien les dernières années de Ferrari, il y a eu des pilotes italiens quand il n'y avait aucun enjeu.
Voilà.
Il y a eu fin 91 quand Prost a été viré pour le dernier Grand Prix à Adélaïde. S'il y a Morbidelli qui a pris sa place au pied levé et qui a marqué un demi-point. L'année suivante, en 92, ça a été Capelli qui a secondé Alési, mais c'est pareil, la voiture était pourrie de toute manière, donc il pouvait pas faire grand chose. Et début 94, quand Alési a eu un problème, lui aussi au cervical, et donc là c'était l'araignée qui l'avait remplacé. De toute manière, on fait appel aux pilotes italiens chez Ferrari quand il y a aucun enjeu. Et voilà, quoi. Dès qu'il y a vraiment un enjeu, bah 99, voilà, on allait chercher Mika Salo pour seconder Irvine. Au lieu de faire appel à Badoer, c'était déjà Badoer en pilote.
Bon, quoique,
non, il était chez
Ford. Non, il était chez, c'était pas Minardi.
Minardi, ouais.
Et c'était d'ailleurs l'excuse officielle de Prost, de Todd, qui disait, ah non, on va pas retirer de chez Minardi pour le faire piloter chez nous. C'est bidon quand même, hein.
Mais pensez-vous qu'il manque à Ferrari un programme de développement jeune?
Je dirais,
parce qu'ils n'ont pas ça. Alors c'est vrai que c'est pas dans leur culture.
Moi je dirais,
Ferrari récupère les meilleurs pilotes du plateau.
C'était sober. Hein,
je ferai une comparaison digne de la Super League Formula, savoir footballistique. Ferrari c'est le Real Madrid et le Barcelone de la Formule.
Ouais.
C'est des équipes qui font rêver. Tout le monde veut y aller et ils le savent. Donc, mais pourquoi ils vont aller développer des jeunes joueurs? Alors qu'ils pourront aller piocher n'importe où ils veulent. Aujourd'hui, Ferrari, à part quelques cas comme Hamilton qui est très bien chez McLaren, mais aujourd'hui, Ferrari peut prendre du jour au lendemain, peut décider d'engager n'importe lequel des pilotes du plateau de Formule 1.
Mais là, ils n'ont pas pu.
Là, ils n'ont pas pu. Pourquoi? Bah parce qu'effectivement, je pense que c'est pas.
Non, ils n'ont pas. C'est pas qu'ils n'ont pas pu. Ils n'ont pas voulu.
Ils n'ont pas voulu parce qu'ils auraient pu prendre. Pourquoi pas Piquet? Pourquoi pas Bourdais? Pourquoi pas Coulthard? Voilà, des mecs ont entre guillemets un peu plus de bouteilles que Badoer sur cette dernière saison. Alors, tout ça c'est fait. Shinji, tu nous fais juste les premières places du championnat, s'il te plaît.
D'accord. Donc, chez les pilotes, Jenson Button 72 points. Deuxième, Rubens Barrichello 54 points et il récupère 2 places. Devant les pilotes Red Bull, Mark Webber 51,5 et Sebastian Vettel 47. À noter qu'ils ne sont plus que 12 à pouvoir être titrés. Chez les constructeurs, Brown Mercedes 126 points devant Red Bull 98,5. Donc là encore, ils resteront leaders après la Belgique. À noter donc que Ferrari est toujours troisième avec 46, McLaren est quatrième avec 41 points et se rapproche. Et il n'y a plus que 6 équipes à pouvoir être titrées.
Lesquelles ?
Eh bien...
Bah, les 4, Williams et Renault.
Toyota, ils sont exclus du titre ?
Si, Toyota, ils peuvent, et Williams aussi.
Ah, et Renault, ils peuvent
non.
plus ?
Non.
Ah, c'est vrai qu'ils avaient une voiture morte cette année.
Mmh. Eux voilà. aussi.
Oui, il fallait 18 points ou plus pour pouvoir être encore dans le jeu. Ils en ont 16.
Ils n'ont pas annoncé qu'ils visaient le titre cette année, il me semble, en début d'année.
Sans doute.
Oui, je crois.
Bah, comme PM.
Donc, on passe au sondage du fait marquant de la course.
14 votes, 64% pour l'accident de Felipe Massa. Ensuite, il y avait le retour des grosses écuries. 6 votes, 27%. Vous n'avez pas de cœur, franchement, pour pas avoir voté pour Felipe. Et la négligence au stand Ono, 9% de vote. Et ça le fait chier parce que lui, il voulait qu'il n'y ait pas de vote du tout.
Et d'ailleurs, je peux fournir les données. J'ai voté pour Shinji, pour l'accident de Felipe Massa. Alors, les sondages fait marquant de la course, ben c'est moi qui commence.
Bah oui.
Fait marquant de la course. Ah,
on va mettre un blanc.
Ah, ça me tente quand même. Non, mais j'aime pas taper sur les ambulances, mais.
Faut pas faire de sentiments.
Badoer. Le retour discret mais remarqué de Badoer. Ensuite, le deuxième, c'est Enzo.
La stratégie de Ross Brawn.
Oui,
qui est bon. Rubens bien chargé en avance, qui anticipe le dernier relais une fois que Lewis a merdé. Puis également l'anticipation du dernier relais de Button pour passer au Weber.
C'est pas Lewis qui merde, hein.
Oui, c'est mes
c'est l'équipe. T'as
l'équipe. Ouais. Ouais. Hein. Oui, on te défend Lewis, toi. Tu bascules du côté obscur, mon fils.
Alors, Shiji.
Alors. Ah bah ouais, puis alors vu...
On va mettre un blanc.
C'était un peu mieux que l'an dernier, hein, quand même.
Ouais. Mais c'est pas un fait marquant, ça.
Je sais. Bon, on va dire les pépins de pneus de l'équipe de Lewis, parce que c'est pas la faute à Lewis.
Il y avait la casse moteur de Vettel. Moi, j'ai hésité.
J'ai hésité, moi aussi.
Donc, vous aurez le choix sur le site www.savf1.fr.nf entre, pour moi, le retour de Badoer, qui devrait gagner, théoriquement. C'est vrai, chers auditeurs. Quoi qu'après ce que je vais dire, on y reviendra. Le problème de stand pour Shinji et la stratégie de Ross Brawn pour Enzo.
Tout ça. Qui devrait gagner également, sinon c'est mon dernier SAV.
Ne vous faites pas de faux espoirs. Je me rends compte que nous n'avons pas fait le podium de la course. Que faisons-nous ?
Barrichello.
Oui, Barrichello, 5 points. Enzo, mm-hmm. Vous donnez des points à Badoer ?
Oui, Barrichello.
Ok. Pour 3 points, en deuxième position.
Hamilton. Qu'est-ce qui t'arrive ?
Je sais pas, j'ai du mal. Ouais, 3 points. Ouais.
Je sais pas, c'est une vie.
Il fait une belle qualif. C'est pas de sa faute les stands, il aurait pu gagner.
Ouais, allez.
Là, j'essaie de donner des arguments des fans d'Hamilton parce que ça manque dans cette émission. Donc, bref. Et le dernier point, on le donne à qui ?
Kimi ? Grosjean. Grosjean, il fait meilleur tour que...
Je voulais mettre Badoer. par solidarité. Et parce que je trouve qu'il a quand même pas été médiocre.
Après tout ce que t'as dit.
Non, je suis assez d'accord avec Grosjean. Moi, personnellement, même Grosjean, j'aurais mis 3 points.
Non, parce que c'est qu'un meilleur tour plus rapide qu'à Lando, c'est tout.
Ouais, mais il fait un bon week-end sans faute.
Oui, mais il marque pas de points.
Donc on met Grosjean. Grosjean.
Ouais, allez, Grosjean, voilà.
7 points. Enfin, je déconne, 1 point. je vous laisserai voir sur le site du SAV le classement actualisé. Bon, ça change rien en tête, hein, toujours Button devant Weber, Vettel. Par contre, je crois que derrière, Barrichello, il y a Hamilton.
Ouais.
S'empare de la 4e et 5e place, tandis que Grosjean fait son entrée ex aequo avec Bourdais.
et Piqué.
Il fait même mieux parce qu'il marque un point, même pas Piqué. Ah oui, Piqué, il a marqué un point. Il marque
c'est un pas point. Bon signe, ça.
Grosjean marque un point dès son premier Grand Prix, alors que Bourdais avait dû attendre le quatrième.
Ouais.
Hey. On passe à notre rubrique préférée, et celle de tous les fans qu'ils préfèrent, la rubrique Drive-Through of the Race, en espérant qu'Enzo, cette fois-ci, ait préparé son coup.
Ah merde, je crois que c'était l'effet de course qu'il fallait trouver.
Bah, c'est pas grave, transforme ça en Drive-Through.
Ouais.
C'est à moi de parler en premier.
Est-ce que, non, mais moi, j'ai ce qu'il faut, donc je peux faire les miens si vous voulez.
Ouais.
Alors, si vous m'autorisez, j'aimerais en donner deux. Alors, il y a un vrai Drive-Through.
Ah. Ouais.
Il y a un vrai drive-through, puis après, c'est pas un drive-through, mais c'est un petit coup de gueule que j'ai envie de pousser.
Bah, le deuxième, tu le donneras après nous.
Voilà.
D'accord. Donc, mon premier drive-through, ce sera contre Timo Glock. Alors, c'est sûr que, voilà, c'est ce qu'il a fait à la sortie du pont, en tassant bien Grosjean, et voilà. C'est de l'intimidation, et c'est classique. Mais voilà, je trouve pas ça très classe de la part d'un pilote. Certains ne l'ont pas fait et ils ont été. On a vu Badoer d'ailleurs, hein, qui a pas voulu gâcher sa course. La Glock ruine la course de Grosjean qui aurait pu être pas mal. Donc voilà.
Alors, le gars qui critique quand même les pilotes qui roulent à 200 km/h entre les rails, il faut savoir quand même qu'il a pas le permis. Hein.
Non, c'est quoi ça? Mais vous avez aucun respect pour mes drive-through, mais toi, je vais t'inventer des blancs pendant ton drive-through. Je vais t'inventer une dizaine d'intermédiaires. donc voilà, moi personnellement, j'ai trouvé pas ça très classe. À vous.
Le choix de Ferrari d'avoir choisi Badoer.
Tu peux argumenter?
Non.
D'accord. Donc le choix de Badoer, ok. Enfin, je note, mais en même temps...
Bah oui, ça sert à rien.
Et toi, Shinji?
Alors, je dirais... Les commissaires qui, j'ai envie de dire, ont, eux, tiré sur l'ambulance. Alors, c'est vrai qu'il a... Il a touché la ligne blanche. Mais en même temps, il vient de se faire doubler par Grosjean. Enfin, il vient de se faire doubler. Il a ouvert une double porte grande ouverte. Il touche la ligne, mais vraiment...
Oui, les fleurs.
Les fleurs. Est-ce que franchement, il y avait de quoi lui mettre une pénalité?
Oui. Et je pense qu'en même temps, ils se sont dit, bon, lui, il risque rien. Pour c'est une vrai. Fois, on va taper sur Ferrari. Les gens ne diront pas comme ça qu'on tape jamais sur Ferrari. Parce qu'on sort quand même de deux Grands Prix où les accidents avec Kimi Räikkönen sont investigués après la course. Et ils se sont dit, bon là, on va en profiter, on va leur mettre tout de suite la pénalité, le drive-through. Sauf que c'est visible comme le nez au plein milieu de la figure. Donc, mon petit coup de gueule.
Mm-hmm. Vas-y.
Alors, mon petit coup de gueule ne s'adresse pas à la Formule 1.
Ah.
Il ne s'adresse pas à Enzo.
Ah.
Attention, Shinji.
Il pour moi.
Il ne s'adresse pas à toi.
Ah.
Il s'adresse à quelques-uns de nos auditeurs. Et je dirais même à deux de nos auditeurs. Ces deux personnages qui soit n'ont pas écouté la dernière émission et que dans ce cas-là c'est pas très bien. Soit décidé de ne pas respecter mon choix.
C'est vrai.
Puisque nous avons deux auditeurs, les méchants, les vilains.
Et tu l'avais dit explicitement quand on l'a fait le sondage.
Que je voulais, lors du sondage sur les faits marquants de la cour, je voulais finir à zéro. Et j'ai deux auditeurs qui ont voté pour moi. Donc voilà, chers auditeurs, c'est pas gentil. Et si un jour je découvre votre identité, vous n'aurez pas de magnette.
Vous vous rendez compte qu'à cause de vous, dans 15, 20, 25 ans, Yannick se réveillera au beau milieu de la nuit en sueur, en se disant oh, mais j'aurais pu gagner. Je me rappelle, t'avais dit je veux pas de vote parce que sinon si j'ai des votes j'aurais l'impression que j'aurais pu gagner.
Bah voilà. Oui c'est vrai. Oui effectivement j'avais dit ça. Vous voyez chers auditeurs la responsabilité que vous portez sur vos épaules.
Il va devoir doubler ses séances de psy.
Voilà, je vais vous refaire d'autres chansons.
Je vais plus avoir de créneau moi.
Donc voilà, c'était mon petit coup de gueule. Bien évidemment fort sympathique, hein, mais quand même que je vous y reprenne pas. Hein? Là, vous votez pour Badoer.
Moi.
Pour Badoer, d'accord. Là, vous pouvez voter, là, je vous autorise. Mais quand même, hein, là, fallait voter pour Massa. Je suis en plus que ces deux fans de Renault et d'Alonso et qui me condamnent pour les propos que j'ai eus sur Alonso ces dernières années. Mais je vais déjà être suffisamment puni, je vais devoir le supporter chez Ferrari. Alors m'en rajoutez pas. Donc voilà, on passe au pronostic du Grand Prix, pas de la Hongrie, parce que j'ai resté Hongrie sur ma feuille, mais du Grand Prix
de Spa.
De Spa.
Enfin, Belgique.
Qui se lance?
Vettel. Non. Barrichello.
Weber.
Shinji Weber. Et moi, parce que j'y cours à dur comme fer. Parce que je suis à fond dedans. Et parce qu'il sera chez lui, je dirais Kimi.
Ah, qu'est-ce que j'aimerais.
Mais... Et parce que j'ai quand même envie de vous chanter l'hymne italien, parce que je l'ai appris, là. Ça...
quand même que ça te sert cette année.
Bah ouais, donc voilà. Bah il reste plus qu'à passer au concours top position, et à revenir sur la question d'il y a, un mois déjà.
Un mois? Hey. Alors, là, la question est polémique, enfin.
Ah oui, on en reparlera après.
Quel jeune pilote débutant devrait remplacer Felipe Massa à Valence? Alors moi, je vous dis, il y avait plusieurs réponses possibles.
Ah non.
Alors, on peut répondre personne, parce qu'a priori, c'était pas un jeune pilote débutant, au sens strict de la phrase.
C'est vrai.
Donc, a priori, à l'époque, on a posé la question, c'était Michael Schumacher.
Ouais.
Et a priori, si vous avez envoyé la réponse genre... jeudi ou mercredi avant le Grand Prix, bah Luca Badoer, ça peut marcher.
Alors qu'est-ce qu'on fait? On prend Luca Badoer ou on prend Schumacher?
Ah bah nous on l'a posé après le SAV, donc c'était par rapport à ce dont on avait parlé dans le SAV.
Ouais. Moi j'ai quand même bien envie d'être magnanime et d'accepter les deux réponses. Sachant que de toute façon
pas de pitié pour les supporters de Renault et de Kubica.
Non, ça c'est Stéphane.
Ah, pardon.
Donc, nous avons pas eu une. Nous avons pas eu deux. Nous avons pas eu trois. Mais nous avons eu quatre réponses.
Oh!
Le record est battu.
Il y en a qui battent deux fois.
Vous voyez, comme le record est battu, j'ai juste une chose à dire. Voilà. J'avais juste ça à dire. Donc, nous avons une bonne réponse de Maël. Nous avons une bonne réponse de Kevin. Nous avons une bonne réponse de Jérôme. J'écris les noms, hein, c'est pour ça que j'énumère. Et une bonne réponse de Stéphane. Ok. Donc, pour une fois, c'est Shinji qui va tirer au sort.
D'accord. C'est quoi les numéros cette semaine?
Alors, tu as le choix entre le numéro 24,1 14,4 34,3 et 11,5.
Je vais prendre le 24,1.
Et c'est Jérôme qui l'emporte. Jérôme qui recevra donc son magnète très prochainement, hein, en même temps que celui de Maël du Grand Prix de la dernière fois que... Désolé Maël, j'ai pas pensé à t'envoyer.
C'était les vacances, hein.
Ouais, voilà, donc on a fermé l'usine et les ordinateurs pendant 15 jours. Donc voilà. En plus, c'est Jérôme qui avait changé de réponse, il avait donc deux bonnes réponses.
Waouh.
Schumacher à Badoer.
Il y en avait une mauvaise aussi.
Oui, c'est vrai. Donc, on va passer à la question au concours top opposition du Grand Prix d'Europe.
D'Europe.
Et pour une fois, ce n'est pas Enzo qui va vous présenter la question au top opposition. Ce n'est pas non plus Shinji qui posera la question. Et ce n'est pas non plus moi qui posera la question. Écoutez.
Vous venez de suivre le service après-vente de la F1 consacré au Grand Prix d'Europe.
Oh, je te balance, oh, je te balance, oh, je... Oh.
Hey, petit, t'as fini?
Pardon, chef, c'est plus fort que moi.
Bon alors, j'en étais où? Ah oui, pour participer dès maintenant à notre concours top opposition, répondez à la question suivante. Quel sport, dont notre ami Enzo est un amateur, devrait faire son apparition aux Jeux Olympiques de 2016?
Chef?
Quoi?
Bah, c'est la question, là. Elle a pas vraiment de rapport avec la Formule 1.
Et alors?
C'est un podcast sur la Formule 1.
Mais tu te prends pour qui, toi, déjà?
Votre assistant, chef.
Oui, bah alors assiste, petit. Explique aux gens comment ils peuvent participer.
Oh, vous êtes sûr, chef?
Oui, oui.
Oh, merci, chef, c'est un honneur. Alors,
quand tu veux, surtout, hein, te presse pas.
Désolé, chef, le tract.
Tu veux dire le tract?
Oui, c'est ça, chef. À force d'en distribuer, je me perds, désolé.
Les gens attendent, petit.
Oups, désolé. Alors, pour répondre à la question du concours Top Opposition d'Europe, et gagner un joli petit magnète, connectez-vous sur www.savf1.fr.nf, rubrique contact. Vous avez jusqu'à la prochaine émission pour nous envoyer vos réponses. Voilà, chef, c'est fait.
T'as pas oublié quelque chose, petit?
Attendez, le magnète c'est fait, l'adresse je l'ai dit, la rubrique contact j'ai pas oublié. Non, j'ai tout dit.
Bon, décidément, faut que je fasse tout moi-même. Bonne chance à tous et rendez-vous dans notre prochaine émission du service après-vente de la Formule 1 consacrée au Grand Prix de Belgique.
Ah, les salauds, ils nous ont aussi piraté le concours Top Proposition. Oh, les enflures.
Donc, il y a 4 W devant savf1.fr.nf.
Oui, je sais, je l'ai gardé. Et je me suis même dit, tu vas passer pour un con parce que t'es même pas capable de dire tout seul ta propre adresse, t'es obligé de mettre un blanc. Et je me suis dit, regarde là. Donc, bah voilà, c'était cette émission du Grand Prix. J'ai du mal. Il est 1h49, nous avons en ce moment enregistré donc un peu plus de 3 heures d'émission. Presque même 4 heures. Mais on pense que, enfin, on espère que cette émission vous a quand même pas mal plu. J'en profite aussi pour vous annoncer, et attention, annonce, vous annoncer que la semaine prochaine, le service après-vente de la F1 fêtera ses 1 an. Du Grand Prix.
Happy birthday to you, Mr. President. Happy birthday to you.
Ah, il est fait bien, il voit comme ça. donc voilà, cet anniversaire, on va essayer de présenter une émission qui aura des petites surprises, etc. Un peu comme on a fait sur cette émission, on s'est un peu entraîné. Mais surtout, moi, ce que j'aimerais faire de cette émission, c'est que comme cette émission commence à rencontrer un peu de succès, et ben j'aimerais qu'on soit pas les seuls à fêter cette émission. J'aimerais que vous aussi vous participiez à cette émission, vous fêtiez à votre manière cette émission. Et donc c'est pour cela qu'on fera une émission un peu spéciale où vous pourrez participer. Tout simplement en nous envoyant vos commentaires par mail, en nous envoyant vos drive-thru, en nous envoyant vos pronostics pour la course de Monza, en nous envoyant vos divers commentaires, vos divers coups de gueule, vos questions aussi auxquelles nous répondrons sur le SAV, sur nous, sur voilà, on se limitera au cadre du public.
Ouais.
Et ceux qui en ont envie et la possibilité, on vous ouvre aussi l'antenne de manière sonore pour poser des questions, pour intervenir de manière sonore. Vous nous contactez via le formulaire de contact et puis on échangera des fichiers MP3 qu'on fera diffuser pendant l'émission et auxquels nous on réagira, etc. Donc grosso modo, cette émission, on va vous réserver des surprises, mais on vous invite à y participer, on vous invite à y contribuer et puis à en faire un bel anniversaire et un beau succès pour une nouvelle année qui s'ouvre. Donc voilà, Walou. Messieurs, je vous remercie de votre incroyable patience, de votre incroyable ténacité, parce que je sais que bien que pleine de surprises, cette émission a aussi été une émission très très difficile techniquement, pour tout le monde. Voilà, et puis je vous dis avec enthousiasme rendez-vous la semaine prochaine pour ouvrir ensemble tous les trois et avec tous nos auditeurs cette nouvelle année du service après-vente de la Formule 1. Au revoir et à la semaine prochaine.
À bientôt.
Ciao, à plus.
Service après-vente de la F1.
Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement. Pour des raisons techniques, votre correspondant n'est plus disponible actuellement. Veuillez renouveler votre appel ultérieurement.